Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Oh, la musique de la Ligue des Champions. Et quelle soirée de Ligue des Champions. Il y aura 18 matchs en même temps. Un énorme multiplex. Tout se passe sur RMC, comme d'habitude. L'avant-match dans Rotten sans flamme, comme d'habitude. On aura tout. Les compos, on aura les objectifs, ce que les clubs risquent. On va faire ça pendant 2 heures, on va se régaler. Et puis surtout, on a autour du plateau beaucoup de gens qui ont joué la Ligue des Champions et qui ont brillé en Ligue des Champions. À commencer par Benoît Boutron. Salut Benoît.
Devant la télé, c'est sûr. Salut Jérôme, salut à tous.
PlayStation, ouais. C'était très simple.
Imprenable.
Ah, il connaît la musique, c'est Christophe Dugarry. Ah, salut Christophe.
Oui. Salut Dugas.
Salut les poulets, comment allez-vous?
Ça va?
Bonsoir à tous. Ouais, ça va très très bien, ravi d'être là pour le dénouement. Enfin.
Ah ouais, là,
ah oui, oh.
Enfin,
ouais. Enfin.
Là, c'est enfin.
Ah, soirée historique.
Et, oui. c'est pour ça, Dugas, on a sorti du lourd, on a sorti Ballon d'Or avec nous. Ah oui. Jean-Pierre Papin, salut Jean-Pierre.
Salut les amis, comment ça va?
Bonsoir Jean-Pierre.
Et toi JPP, le genou alors?
Ça va, ça cicatrise tranquillement. Hein.
Bon, bah tant mieux.
Voilà. Ouais.
On a enlevé le bout de cartilage qui se baladait. Terminé.
C'est ça. Ouais. C'est ça.
À vu l'âge, il faut prendre le temps.
Hein. On est bien d'accord.
Sur Rotten sans flamme, spécial Ligue des Champions ce soir. C'est la dernière journée de la phase de poule. Les 18 matchs en intégralité dans l'After Live à partir de 20h. Les enjeux pour Paris, Marseille et Monaco à 19h. Rotten se chauffe. Est-ce que manquer le top 8, ce serait un échec pour le PSG, supporter parisien? On vous attend au 32-16. À 18h45, allô Jérôme, on a convoqué le commentateur numéro 1 de la RTBF, voilà, la chaîne belge, pour nous parler de Bruges. C'est Manu Jousse qui sera avec nous. Il va nous parler donc de cette équipe du club Bruges. Et puis à 18h30, ce sera le procès d'un autre Belge, le procès de Pocognoli, l'entraîneur de Monaco, qui vise clairement le match nul ce soir face à la Juve. Ouais. Et oui, un point suffit. Bah lui, il a dit, nous, on va essayer d'aller chercher ce point.
Oh, bon.
Voilà, vous l'entendrez. Il suivra avec intérêt les résultats du soir et les conséquences sur la potentielle qualification de l'AS Monaco. Et puis, on a un événement handball ce soir parce que c'est une sorte de quart de finale à l'Euro entre la France et l'Allemagne à Herning. C'est la dernière journée du tour principal. Salut Nicolas Paul Orsi.
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Oui, c'est un dernier match de poule, mais c'est un quart de finale tout simplement parce que l'équipe qui gagne se qualifie pour les demi-finales de l'Euro. C'est parti depuis 1 minute 50, un partout entre la France et l'Allemagne. Et bien évidemment, ce match, ça nous fait penser aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la dernière fois qu'on a joué les Allemands en compétition officielle. Les Allemands qui avaient causé à l'équipe de France sa plus grosse défaite dans l'histoire du handball français en s'imposant à Paris avec cette perte de balle tragique de Dikamem. Vous vous en souvenez, à 6 secondes de la fin. Dikamem, il est sur le terrain et c'est lui qui vient de marquer le premier but des Français. Un partout, 2 minutes de jeu.
Magnifique. Vous vous souvenez ce traumatisme aux Jeux Olympiques?
Oui, mais non, mais on ne veut pas de défaite de l'équipe de France dans Rotten sans flamme. Ça ne va pas.
Voilà, on veut que ça passe et se qualifier pour les demi-finales. Merci Nico, le match.
Il ne va pas être chat noir tout le temps.
Il sera bien
Nico,
suivi dans Rotten sans flamme. Allez, 18h03 sur RMC tout de suite. L'OM veut revivre les grandes émotions du passé.
Ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. Pour réussir ce soir, il faut vraiment que vous soyez animé d'autre chose que vos qualités humaines. Un supplément d'âme.
Maxi, de votre vers Linden. Le but pour Marseille, victoire pour Marseille, ainsi que la qualification pour la finale.
Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque.
Luis Enrique, qui s'élance, qui frappe et qui marque.
Ah oui,
goal, demi-finale de Coupe d'Europe.
C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
Ça caille. C'est le but. 5-2, l'Olympique de Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa.
Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous serrer dans leurs bras.
Rolando est qualifié de l'Olympique de Marseille en finale de l'Europa League.
À l'issue de la rencontre, vous serez des héros. Bon match à tous.
On va se régaler encore toute la soirée, toute l'émission, la soirée. C'est sur RMC que ça se passe.
Marseille doit donc assurer sa qualification pour les barrages de Ligue des Champions ce soir à Bruges. Une victoire les qualifierait directement. Un nul a de fortes chances de les envoyer en barrage. Et même une défaite ne serait pas forcément rédhibitoire. D'après les spécialistes des stats Opta, l'OM a 5% de chances seulement d'être éliminé. Donc, a priori, Marseille pourrait accéder à ces barrages. Rappelons que l'OM n'a plus...
Gérer.
Bah non, il n'y aura pas de gestion. Marseille n'a plus disputé la phase à élimination directe de la Ligue des Champions depuis 2012. Mmh. On en parle.
Pour la jouer, il faut, pour jouer les phases de élimination directe, il faut déjà jouer la Ligue des Champions.
Il faut
champions.
Y être souvent, ce qui n'arrive jamais deux années de suite, en tout cas depuis 15 ans. Florent Germain, on l'a envoyé à Bruges pour commenter ce match. Ah bah salut Flo.
Salut les amis, salut à tous. Alors, tout Robert... le monde me parle de Jean-Pierre Papin, c'est incroyable.
C'est pas vrai?
Bah à Bruges,
un petit peu, un petit peu.
Ah bah évidemment, bah
faut
oui.
Pas oublier.
Il a les joué gens. À Bruges. Hein.
Il y a des maillots papins quand même dans les tribunes de l'OM habituellement ou pas?
Oui, oui, ouais, il y a des maillots papins. Ouais, bien sûr, bah oui, bah il y a des maillots papins, Waddle, bon Boli.
Dugarry, mais... non
Dugas, il y en avait un, mais je ne le vois pas. Plus depuis quelques temps. Ouais. Ah. C'est ça. Ouais. Le maillot or, non, je rigole. Dugas, il y est, bien sûr qu'il y est. C'était un maillot très recherché parce que c'était l'année du centenaire et avec le col magnifique, là,
le maillot
or.
De l'histoire de l'OM. Maillot
non, non, le maillot Dugas, c'est un maillot important.
Bon, Flo, tu as assisté à la conférence de presse d'avant-match. Roberto De Zerbi a parlé d'un rendez-vous historique pour l'OM.
Oui, alors historique, c'est peut-être un adjectif qui a pu surprendre quand il a dit ça samedi soir. C'était après OM Lens. Alors, il est revenu là-dessus hier. On va l'écouter en conférence de presse. Il parlait de match historique en pensant principalement, et tu l'as dit Benoît, au fait que l'OM n'a pas disputé un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis 2012 et que en gros cela validerait la progression du club. Mais il y a plein d'autres raisons de considérer que c'est un rendez-vous majeur, écoutez, aux yeux de l'entraîneur italien.
Je dis ça déjà à titre personnel car j'ai déjà joué cette compétition avec le Shakhtar et je n'ai pas réussi à sortir des poules. Donc déjà ce serait pour moi quelque chose de magnifique. Et puis pour beaucoup de joueurs de l'effectif, je ne crois pas que beaucoup aient eu la chance de jouer des matchs de phase finale de Ligue des Champions. Et ça fait de longues années, il ne faut pas l'oublier, que l'OM n'est pas arrivé à ce stade de la compétition. Et puis je le dis car j'ai confiance en mon équipe. Si on devait passer dans cette phase à élimination directe avec des gros matchs aller-retour, je répète souvent que mon équipe est capable de perdre et de gagner contre n'importe qui, donc je vous garantis que ce ne sera pas perdu d'avance.
Voilà, donc il a envie d'en découdre dans des matchs à élimination directe, le parfum des barrages, d'un potentiel huitième, un vélodrome plein à craquer, donc ça c'est très attendu par les supporters. Bon, c'est assez rigolo et cocasse parce que rappelez-vous, en début de compétition, on a souvent répété que l'OM ne se fixait aucun objectif dans cette Ligue des Champions et restait du coup très prudent avec ce retour en C1, mais effectivement s'il y avait un barrage, l'OM, Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia, Pablo Longoria auraient le sentiment de valider de mettre un tampon sur cette progression de l'Olympique de Marseille depuis quelques saisons.
Et c'est donc la une de Rotten sans flamme. Est-ce un match historique pour l'OM 32-16 pour participer avec Jérôme, avec Dugas, avec JPP? Jérôme, est-ce que c'est un match historique alors?
Ah, ce soir, non, ça n'a rien d'historique du tout. si on m'explique qu'à Marseille, après avoir gagné la Ligue des Champions, alors maintenant c'est un autre temps, on est d'accord, hein, ça fait quelques années, mais c'est quand même, ça veut dire que Marseille a déjà existé à un autre niveau en Ligue des Champions, a déjà fait beaucoup d'épopées en Coupe d'Europe, sans forcément gagner. Il y a eu des finales aussi de Coupe d'Europe. Donc, t'imagines bien que se qualifier en 16e de finale de la Ligue des Champions, il n'y a rien d'historique
du tout. 14 ans.
Et surtout, et je vais aller plus loin, il y a surtout arrêter de me parler d'exploit. Parce que quand tu regardes la formule, l'objectif de l'OM, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit, c'est de finir dans les 24
barrages.
Ouais. D'accord. Ok. Donc là, ils sont dans leurs objectifs. Est-ce que quand, au début de saison, ils t'ont dit, si on est dans les 24, c'est historique, ça serait fantastique parce que, bah, on est plus armé aujourd'hui pour finir entre la 25e et la 36e place. Mais on serait foutu de leur tronche s'ils avaient dit ça. Parce que les moyens de l'Olympique de Marseille font que, et le recrutement, qui a été jugé par l'encadrement de l'Olympique de Marseille et par De Zerbi, un très bon recrutement avec une équipe qui est très forte. Même lui, il le redit encore. Moi, j'attends de voir, parce que c'est un peu contradictoire ce qu'il nous raconte. Il nous dit, cette équipe de l'OM, elle est capable de perdre contre tout le monde, mais aussi de gagner contre tout le monde. Mmh. Bah, j'ai pas l'impression que t'as gagné contre tout le monde en Ligue des Champions cette année. T'as eu 7 matchs à jouer, t'as 4 défaites.
Et le Real, le Sporting, la Talenta, Liverpool.
Et les victoires, à part, allez, on va dire, Newcastle,
l'Union Saint-Gilloise.
Qui est une très belle équipe, on le voit, Newcastle, tous les week-ends en première ligue, on est d'accord. Mm. Mais bon, on va dire que le mérite, s'ils n'étaient pas favoris sur ce match-là, ils l'ont gagné. Mais derrière, t'as pris des claques contre Liverpool, t'as gagné à l'arrache contre l'Union Saint-Gilloise, à l'arrache, parce que s'il n'y avait pas les dieux du stade qui étaient là ce soir-là, je pense que tu ne gagnais pas. D'accord. Ça s'est joué à 2000.
Il parle plus d'un sentiment qu'il a, Jérôme, par
rapport au fait que contre le Real, ils ont eu la sensation de rivaliser, oui, oui, d'avoir été malheureux contre Paris. On va pas revenir sur les deux rencontres où Marseille a regardé le PSG dans les yeux, comme on dit. Donc c'est plus une sensation qu'il a et l'envie de voir ce que ça donne dans des matchs aller-retour, oui, avec un parfum spécial. C'est ça,
je veux dire. T'es d'accord, Flo, aussi, que quand il te dit ça, bien sûr que t'as envie de vivre ça quand t'es à Marseille avec un stade de 60 000 personnes poussées. Bien sûr qu'il y a une excitation particulière. Mais nous, on est aussi là pour la passion, c'est très bien. Être supporter d'un club, c'est très bien. Mais mettre le pied sur le frein en disant, écoute, à chaque fois qu'il y a des matchs importants en Ligue des Champions, même si, en effet, et t'as raison, Flo, il y a eu match à Madrid, au Real. C'est toujours pareil, tu perds le match, mais on va dire que tu les as contrariés, d'accord. Mais à part ce match-là, tous les matchs où on attendait Marseille, que ça soit à domicile contre l'Atalanta, on parle de l'Atalanta à domicile.
Mais historique, le mot est fort, Jérôme, ça c'est sûr. Mais je pense que dans son discours, derrière ça, en toile de fond, il y a le fait que bon bah c'est pas de ma faute si depuis 14 ans.
Mais c'est vrai.
Tiens, eux, ils se disent bon, on a commencé en gros le vrai projet il y a un an et demi quand l'entraîneur italien est arrivé. Bah eux, ils se disent bon, au bout d'un an et demi, au moins on a validé cette étape-là.
T'as raison, mais côté historique, déjà il faudra attendre le déroulement du match ce soir. Mais imagine. Tu nous dis que c'est historique si tu te qualifies ce soir, parce que je pense qu'en effet l'OM, même en perdant, ils vont se qualifier, tu vois.
Il y a des chances,
mais imagine juste, tu te qualifies en perdant et ce soir on t'a dit avant le match, c'est historique, on est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue des Champions en ayant joué 8 matchs, perdu 5 matchs et gagné que 3 matchs.
Et l'objectif sera rempli. Oui, tu seras en barrage.
Ça sera pas historique, mais ça sera un exploit. En effet, de passer les barrages et de te qualifier en 8e de finale, d'être dans les 16 meilleures équipes européennes.
Vas-y, Jérôme, si je peux me permettre.
Historique en italien, c'est un mot qu'on emploie très souvent pour dire que c'est important. C'est pas l'historique comme nous, c'est historique sur le temps, etc.
D'accord.
Mais moi, je pense que
on a hâte de parler français quand même.
Oui, mais moi, je pense que De Zerbi, il a besoin de lui se mettre une très très grosse pression. Pour la faire passer à ses joueurs après. Parce que moi, le connaissant un petit peu, sur certains matchs où j'avais été aux abords du vestiaire, c'est quelqu'un qui il va être peut-être avoir plus le visage fermé que beaucoup d'autres en entrant, parce que lui, il a une très très grosse pression. Et je pense que ça lui permet, je pense, de se mettre dans le truc direct et de faire passer après ça aux joueurs.
Est-ce qu'il joue gros ce soir, JPP, De Zerbi, alors?
Non, je pense que c'est un match important. En plus, non seulement c'est un match important, c'est un match qui est largement dans leur corde. Même malgré tout, s'ils matchent nul ou même peut-être même ils perdent, mais soir ils vont pas perdre, ils se qualifieront. Et l'objectif, quoi qu'il arrive, avéré au départ, c'était de se qualifier dans les 24.
Exactement,
après,
ça c'était un objectif, ça, on est d'accord.
Et voilà, le podium en Ligue 1 pour se requalifier pour l'édition prochaine.
Ouais. Exactement.
Dugas, est-ce qu'il est historique ce match pour l'OM alors?
Écoute, ça arrive pas si souvent que ça, mais je partage beaucoup d'arguments et d'éléments qu'a cité Flo. Voilà, je suis assez d'accord avec lui. Faut pas trop accorder trop d'importance à ce mot historique aussi. Parce que c'est déjà historique pour lui, De Zerbi. De Zerbi, il a 13 matchs de Ligue des Champions, il n'a gagné que 3. Ouais. Donc déjà pour lui, c'est historique. Pour lui déjà, comme moi je l'ai déjà dit, c'est une chance pour lui d'entraîner l'Olympique de Marseille. C'est une opportunité qui lui est donnée. Il prend les choses à cœur avec beaucoup de passion. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le club. J'espère que ça va permettre à ses joueurs de passer ce tour-là et de vivre des moments super, parce que la Ligue des Champions, c'est le must. Il n'y a pas mieux, hein, sincèrement, en qualité de foot, de match et tout ça. C'est génial. Donc voilà. Après, historique, non. Marseille, l'histoire quand même de l'OM, c'est autre chose que ça. Après, faut quand même pas oublier, parce que De Zerbi aime beaucoup les faits. Il faut toujours se rappeler aux faits. Ils ont quand même une armada. Ils ont quand même de quoi faire. Ils ont quand même de quoi passer.
Bah, c'est pour ça. Exactement.
En 16e de finale. Donc,
t'imagines que Karabag, Galatasaray, Leverkusen avec tout ce qu'ils ont perdu, le PSV Eindhoven, Bilbao, l'Olympiakos, ils risquent de passer.
Oui, bien sûr. En plus, cette nouvelle formule facilite un petit peu pour arriver dans ce 16e de finale. Donc voilà, il y a des sacrés joueurs, ils ont une bonne équipe. Sincèrement, il a les billes pour pouvoir se qualifier largement. Le travail de Benatia et de Longoria, une nouvelle fois, ils l'ont trouvé deux joueurs, deux espèces de pépites pour aller jouer ces matchs-là. Bon, voilà, tout n'a pas été parfait, mais il y a de quoi quand même bien travailler et se qualifier. Et quoi qu'on en dise, comment ça, ils ne seront pas qualifiés?
Non, ils peuvent pas jouer ce match-là, les nouvelles recrues, c'est ce que veut dire.
Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais après, ça permet le match d'avant de se reposer.
Bien
ça
sûr. Permet, tu vois, bah, c'est ce qui a permis de mettre des nous de repos.
Ce que je veux dire, c'est que, ouais, à chaque fois que De Zerbi, il a eu des joueurs qui voulaient plus, à chaque fois que ça a été un petit peu dans la difficulté, on lui donne toutes les billes pour réussir, pour y arriver, tout ce qu'il demande, on lui donne. Donc voilà, il est dans une situation, dans un contexte hyper favorable. Et quoi qu'on en dise, moi, je trouve que ça serait important. Alors, pas historique, mais décisif dans le projet qui est sur 3 ans. Et quoi qu'on en dise, le projet, il n'est pas de se qualifier à la Ligue des Champions à 3 ans. Il est de se qualifier pour sortir de se faire un CM de finale au bout de la 2e année. Et l'année prochaine, essayer de confirmer. Parce que ne rêvons pas quand même. Aujourd'hui, ne rêvons pas. L'OM, avec le budget qu'ils ont aujourd'hui, ils ne feront pas mieux l'année prochaine. Ils sont au maximum, oui. À mon avis, de ce qui peut être fait. Donc, je vais pas dire que...
Au maximum, peut-être pas. Peut-être pas.
Si, 260 millions d'euros de budget, mais ils sont au maximum. Tu crois que le propriétaire, il va continuer à envoyer des millions et des ci et des là à chaque fois. Non, moi j'ai l'impression que le staff fait des miracles à chaque fois à recruter des espèces de pépites. Attention, Aguert, Højbjerg, ils ont trouvé, il y en a des tonnes de joueurs qu'ils ont réussi à acheter, Emerson qui est blessé ce soir, ils ont réussi, ils ont quand même bien travaillé. Alors il y a eu des échecs bien évidemment, mais je trouve que dans l'ensemble ils ont réussi à faire
tu peux pas me dire que Højbjerg, Aguert, attention, c'est des bons joueurs, mais bon, c'est pas non plus c'est pas des cadors non plus, tu vois.
Quand
tu vois
les peuples jouer en Ligue des Champions quand même.
Non, mais ça peut être suffisant pour passer les poules et jouer un barrage ou un huitième. Mais d'ailleurs, quand vous dites qu'il y a du matériel, j'ai listé, parce que avec la déclat de De Zerbi, j'ai regardé quels joueurs avaient déjà passé les poules et joué des matchs à élimination directe dans cet effectif. Il y en a quand même quelques-uns. Rouli, Højbjerg, Kondogbia, Aubameyang, Greenwood, notamment contre le PSG là, au parc avec Manchester. Paichao, il a fait un barrage après il a été blessé. Wea, et je compte pas Pavard et Emerson qui sont blessés. Donc il y a quand même, ce que dit Duga, c'est qu'il y a du matériel. Alors, et que ça quand même implique le fait de se qualifier, quoi.
Flo, ils nous l'ont présenté comme ça en début d'année pour nous expliquer pourquoi ils avaient recruté autant et pourquoi ils avaient accepté que certains partent. C'était pour aussi gagner un petit peu en expérience pour en perspective la Ligue des Champions, pour atteindre l'objectif de se qualifier pour les barrages. En effet,
c'est un vrai coup d'arrêt, Jérôme. S'ils se qualifient pas, c'est un
vrai
coup d'arrêt.
Ah non, mais c'est terrible.
C'est pour ça que De Zerbi, il joue.
Mais ils vont se qualifier, mais même en perdant.
Moi, j'en suis convaincu aussi. Je pense que comme Jean-Pierre, qu'ils perdront pas ce soir.
Ils vont
se qualifier. Mais après l'exploit,
il sera en effet, vu les moyens. Et là, je vous rejoins avec
de
Flo.
Le barrage.
Du gars, c'est que, en effet, si tu passes les barrages, peu importe contre qui, tu rentres dans le cercle très fermé des 16 meilleures équipes européennes.
Exactement.
Avant d'accueillir d'autres choses.
Stéphanie qui nous attend en 32-16, avant d'avoir la compo probable avec Flo Germain, le direct, le handball et ce match du tour principal décisif pour les Bleus face à l'Allemagne, Nico Paolorsi.
La 17e minute et les Français sont menés de 2 buts par les Allemands, 9-7. Il y a un exceptionnel dit quand même pourtant. Hein. On le disait, ultra revanchard, c'est ce qu'il nous disait hier. Il a marqué 4 buts côté français, mais on a du mal.
Le gardien ne fait pas un arrêt.
Ouais, si, il fait des arrêts par rapport au gardien allemand. Le gardien allemand a fait qu'un seul arrêt, le gardien français 3, tu vois, Jérôme. C'est compliqué un petit peu dans le jeu. 9-7 pour l'Allemagne, ballon pour les tricolores pour revenir à un but. Il reste 14 minutes dans cette première période.
Stéphanie, supportrice de l'Olympique de Marseille, est avec nous au 32-16, Jérôme.
Supportrice, ouais. Salut Stéphanie. Bonsoir. Bon, écoute, tu as la parole. Voilà, on te coupe pas. Qu'est-ce que tu penses de ce match ce soir? Est-ce que c'est historique?
Alors, ça ne sera pas historique, ce que disait tout à l'heure au standard. C'est pas historique comme un titre en Ligue des Champions. Mais, mon point de vue de supportrice, qui en a marre de se taper des 800 km aller-retour comme la semaine dernière pour prendre 3-0 à domicile, on a envie quand même cette victoire. On a envie de passer le cap. On a envie, au moins pour une fois, ça fait tellement d'années qu'on est ridicule. En Ligue des Champions, pas un point. Moi, j'étais quand on joue contre Tottenham, là, qu'on se prend le dernier but à la fin. J'étais à Madrid où on y a cru. Je suis allée jusqu'à Madrid. On repart, on a perdu 2-1. On était quand même plein d'espoir. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel. Être supporter de l'OM, faut s'accrocher parce que on passe d'un match contre Paris exceptionnel où on s'étale après au tir au but. Après, on a le match de Nantes avant. On joue contre Lens, on fait un super match. Liverpool, on fait rien. Donc c'est dur d'être supporter de l'OM. Donc on a envie quand même Nous, en tant que supporters, on a envie d'aller au moins en 16e, même si on sait que la Ligue des Champions, elle ne gagnera pas. Mais
ah bah non,
on
ça
a
c'est
envie.
Sûr.
Bah c'est sûr, on n'a pas les sous, on n'a pas le.
Ah bah non, 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 t'as pas le talent surtout.
Il y a pas, il manque. Non, mais les déchets techniques à ce niveau-là, c'est frustrant. Aubameyang, la balle du 3-1 limite contre Paris, qu'il la perd. Il joue, il a 36 balais. Il aurait pu, je sais pas, l'emmener sur le corner.
Ah ouais, c'est vrai, c'est terrible ça. Comme ça.
Donc, arrête voilà, de chauffer que... toi.
Ouais, non, mais c'est, je m'en doutais tout de suite. En face de moi, j'ai un, enfin, en face de moi.
Et toi, excuse-moi, et toi, tu en veux, excuse-moi, et toi, tu en veux à qui? Tu en veux à l'entraîneur ou tu en veux au joueur, alors?
Bah, pour certains là, j'en veux au joueur. Parce que, il y a un moment donné, on a envie de leur dire quand, bouger, c'est pas possible de perdre des ballons comme ça, de perdre, de pas réussir un contrôle, de faire des relances, de marquer les buts contre leur camp, là, contre, bah, je sais pas, il y a des fois, on a l'impression que, les mecs, ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a 65 000 supporters qui sont là. Et puis 65 000, voilà, des fois un peu plus, on va dire comme ça, dans le stade. Il y en a qui se tapent des 800 bornes ou plus que nous. Il y en a qui traversent
la. Non, mais je pense que c'est, Stéphanie,
ça nous énerve, en fait.
Non, mais ouais. Je pense que les joueurs en ont conscience. On est passé par là aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand tu rentres dans un stade, tu commences un match, bien sûr que tu ne vas pas penser à la personne qui a fait des milliers de kilomètres pour venir. Du moins, tu penses déjà à être performant individuellement et aussi collectivement à tirer le maximum. Mais c'est pour ça, la question du gars, c'est tu peux en vouloir aux joueurs, mais t'as un entraîneur aussi qui met des choses en place, et c'est vrai que on a quand même l'impression que même lui, il a le plafond de verre, il l'a atteint en Ligue des Champions sur les gros matchs.
Niveau d'analyse, hein, moi, de foot, et ça, j'ai joué, mais pas assez hein, pour tout ça. Mais puis ouais, j'ai plus de 50 balais, donc il y a des trucs, voilà, je comprends ah ouais. pas forcément tout, mais. Il y a des fois, effectivement, on comprend pas. On comprend pas pourquoi il en sort, pourquoi est-ce qu'il fait ces changements-là, pourquoi. Mais à l'inverse, moi, je comprends pourquoi, contre Lens, il en a mis quelques-uns sur le banc, peut-être pour les reposer, mais aussi peut-être un peu pour les piquer.
Pour les piquer, ouais.
Les piquer au vif. Mais d'un autre côté, il y a des fois quand on comprend pas pourquoi certains sont là et d'autres pas, ou pourquoi il les change de poste. Mais voilà. Après,
bah écoute, après De Zerbi, il est comme ça. Moi, franchement, ouais, moi, plus ça va, moins ça va. Moi, dans la relation que j'ai, l'estime que j'avais pour De Zerbi. Moi, l'année dernière, je l'ai souvent protégé. Cette année, en effet, je suis parti du principe qu'au bout d'un an, bah, on est en droit d'attendre un peu plus de régularité de sa part. Et puis, il s'est complètement perdu en communication.
Trop dur, t'es pas sympa.
Non, et moi, je vais te dire, du gars, là où il me déçoit, c'est que je le voyais pas comme ça, mais je pense qu'en effet, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, et c'est jamais de sa faute, en fait. C'est jamais de sa faute, c'est jamais ceci, il en veut à la terre entière, et je le voyais pas comme ça l'année dernière.
Après, tu le jugeras peut-être après ce soir, non, ça dépend comment il se qualifie.
Non, écoute, quelqu'un qui touche plus terre, tu le vois déjà, et je pense que lui, il est totalement là-dedans.
Bon. Merci Stéphanie d'être venue au 32-16, bon match ce soir, Bruges, Olympique de Marseille à 21h. Flo, on a des indices pour la compo d'équipe de De Zerbi ce soir ou pas encore ?
Bah, y a une compo qui se dégage et qui est assez logique d'ailleurs vu les forces en présence du côté de l'OM. Évidemment, Rouli dans le but, Balerdi, Aguerd et Medina pour trois axios, Wea et Paichao, il y avait un petit doute et on n'a pas pu le lever totalement aujourd'hui parce que il s'est entraîné à part hier, mais a priori il compte quand même sur sa capacité à prendre le couloir. Murillo, ça avait été un vrai échec contre ouais. Liverpool dans ce couloir là en l'absence de Emerson. Kondogbia, Oibia au milieu de terrain et Greenwood, Guiri, Traoré pour le trio offensif. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise.
Oui.
Avec Roberto De Zerbi, c'est souvent le cas. Mais
Vermeeren, il a quoi Vermeeren maintenant?
Vermeeren, écoute, bon, tu sais qu'il a été suspendu contre Nantes pour ouais. un tacle sur Anthony Lopez. Roberto De Zerbi avait dit qu'il l'avait trouvé moins bien, même mentalement, ces dernières semaines. Donc, ils ont eu pas mal d'échanges tous les deux. Mais c'est vrai qu'il est... Il a plus de temps de jeu depuis sa suspension.
Ouais. Bon,
est-ce que ça peut être l'une des surprises du jour?
Allez au placard.
Flo, tu reviens dès que t'as la compo. Antenne ouverte dans Rotten sans flamme pour la compo de l'OM face à Bruges. Et on reparle de Bruges d'ailleurs à 18h45 avec Manu Jousse, commentateur de la RTBF, qui va tout nous dire de ce club Bruges. Bruges une fois. Le handball, comment vont les Bleus? Est-ce qu'ils réagissent face à l'Allemagne à l'Euro, Nico Paul Orsi?
Oh mal, là, les Bleus vont mal, ils sont menés de 4 buts, 13 à 9. Arrêtez avec ça, vous commencez à me faire douter. Mais Dikamem est exceptionnel. 6ème but,
mais oui.
Français.
Il est là, la patte gauche.
À Yorick Nord qui court et qui va permettre aux Allemands de marquer sur le jeu rapide. On n'est pas présent dans l'intensité. 14 à 10 pour les Allemands, il reste 8 minutes en première période.
Mais qu'est-ce que c'est que cette défense?
Quelle idée du gars d'envoyer le mec qui suit les Girondins suivre le hand. Comment veux-tu qu'on gagne? Ouais, quelle histoire.
Ah bon. C'est des armoires les Allemands, il faut tous 3 mètres.
Franchement, ils bougent pas, ils prennent des taquets, ils bougent pas les mecs.
Allez, dans un instant, le procès de Pocognoli, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui lui l'a annoncé. Il vise le nul ce soir contre la Juve.
Il est bon aussi, lui.
Pour se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions.
Il est tombé dans la marmite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h30 sur RMC, on est là. On est bien dans Roten sans flamme. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir, c'est maintenant avec Jean-Pierre Papin, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, on reçoit notre confrère
RTBF. Manu Jousse.
Manu Jousse.
L'accent belge pour voir ?
Non, je suis très mauvais en.
Du gars, essaye l'accent belge pour voir ?
Pas du tout. Respectons les Belges, s'il te plaît.
JPP, tu veux pas y aller non plus ?
Ah bah, Jean-Pierre, il a joué en Belgique.
Je vais pas y aller, moi.
Oh, mais on a pas joué.
Allez, JPP, là, qu'est-ce que ça donne alors ? Un peu de courage.
C'est vrai, quoi. Je me souviens d'une interview de toi.
Ah, attends, il s'est lancé.
Tu rajoutes une fois de temps en temps et ça le fait.
Allez, à toi, du gars.
C'est bon, on l'a enregistré.
Non. Alors, on va tester. Je football. Moi, je suis un mec, je prépare. Moi j'ai préparé l'émission, je suis pas là pour faire des dingueries, bien des machins, mais moi je suis dans mon émission, là je suis concentré.
Ah, pardon,
voilà. Je t'en prie.
Jean-Pierre, il faut jamais faire ce que t'as fait. Parce que là maintenant ils ont une.
On a ça pour la prod désormais.
Pas grave.
Est-ce que Nicolas Pollersy maîtrise l'accent belge? L'Euro de hand, le match important pour l'équipe de France contre l'Allemagne.
Et les Bleus maîtrisent encore moins l'accent allemand depuis le début de cette partie, puisqu'à moins de 3 minutes de la partie, ils sont menés de 3 buts, mais on a un ballon pour revenir à 2 buts. Là, un pénalty pour Hugo Desca. Ça va un tout petit peu mieux pour l'équipe de France qui a retrouvé de la stabilité avec l'entrée de Thibaut Brié. Allez, ce pénalty, il est important. Juste avant la mi-temps, Hugo Desca face à Andy Wolf. Il en a raté un tout à l'heure. Il l'a mis sur le poteau. Desca, c'est le spécialiste français en la matière. Ça passe. Les Bleus recollent à 2 buts. 16-14 pour l'Allemagne. 2 minutes 20 secondes à jouer.
RMC, Roten sans flamme.
Henri, laissez pas ici.
Et qui m'a appelé Henri là? C'est ça l'éducation, moi, la jeunesse. Après, il n'y a plus d'éducation, plus de respect. Ah bon?
Ça va?
Ah bon? Voilà, tout doucement, voilà.
Le procès de Roten sans flamme.
Sacré tir, Henri. Et tiens, c'est très drôle. Sur le numéro WhatsApp d'RMC, le 06 12 424 424, j'ai Stéphanie qui m'écrit. C'est encore Stéphanie, j'ai oublié de préciser que si je vais aussi souvent au Vélodrome, c'est parce que mon mari et moi sommes abonnés au Virage Nord. Effectivement, notre passion pour l'OM est plutôt forte. Tu m'étonnes.
Ah bah ouais.
800 km à chaque fois pour aller au Vélodrome. Imagine. Bravo Stéphanie, ça c'est la passion du foot. Ouais. Alors, objectif barrage également pour Monaco ce soir, réception de la Juventus au stade Louis II. Monaco a 9 points comme l'OM, mais une très mauvaise différence de but. Moins 6. Alors, une défaite condamnerait certainement les joueurs de Pocognoli. En face, la Juve voudra gagner en plus pour tenter d'accrocher le top 8. Écoutez le coach belge qui va certainement calculer ce soir pour essayer de se qualifier pour les barrages.
Je pense qu'il faut se focaliser sur notre plan de jeu et ce qu'on veut mettre en place, mais forcément qu'on doit aussi savoir dans certaines circonstances ce qui se passe dans d'autres matchs. On sait que prendre un point nous assurera quasiment la qualification. Donc à partir de là, il faut jouer pour ça de manière audacieuse mais réfléchie.
Rappelons que Monaco va mal, hein. C'est la pire équipe de Ligue 1 sur les 9 dernières journées. Il y a 9 joueurs absents en plus pour Pocognoli ce soir. On fait donc son procès ce soir, lui qui vise le nul face à la Juve. Un procureur, c'est Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats pour Pocognoli, Maître Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Papin, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Paul, supporter monégasque, va rendre le verdict au 32-16. Salut Paul.
Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde, très content d'entrer avec une très belle équipe ce soir.
Eh bien, ravi de te recevoir, sois le bienvenu et sois objectif dans ton verdict. Jérôme, vas-y, qu'est-ce que tu as pensé de cette décla et de cette stratégie assumée alors?
Bah écoute, moi j'ai toujours du mal avec... Quand tu prépares un match de foot, c'est pour le gagner. Alors bien sûr que tu dois aussi faire en fonction au fur et à mesure du match et des minutes par rapport à. Il faut pas être complètement con non plus en se disant si un match nul nous va un quart d'heure de la fin, on va peut-être pas prendre énormément de risques pour aller chercher une victoire et te faire contrer. Mais ça, tu t'adaptes sur les fins de match en général. Le meilleur moyen de se planter c'est en effet de préparer un match pour ne pas le perdre. Pour faire un match nul, t'as un point au départ. Bon, bah, écoute, on va essayer de conserver ce point-là. Et puis après, on s'adaptera aux événements du match. Moi, en fait, je comprends pas la communication de Pocconioli. Pocconioli, il est arrivé avec beaucoup de fraîcheur. Il connaissait pas l'AS Monaco, il s'est renseigné, il a essayé de mettre quelque chose en place, de la stabilité, de la confiance, et redonner à ce vestiaire le goût de l'effort et le professionnalisme qui est essentiel pour n'importe quel club de football, et pas qu'à Monaco. Mmh.
Il a bien réussi d'ailleurs.
Il a bien réussi, la preuve, c'est que à l'arrivée, ils ont une série terrible en championnat, c'est la plus mauvaise équipe. Heureusement, ça a été bonifié en quelque sorte sur leur victoire contre Galatasaray au mois de décembre, à l'arrache, hein, on va dire. Et ils ont joué Galatasaray, qui n'est pas la meilleure équipe d'Europe, mais ils gagnent quand même. On va pas lui retirer cette victoire-là. Non, mais nul contre City, je crois qu'il y était pas. Il y était. Il venait d'arriver.
Ouais, il était là.
Il venait d'arriver. Donc, écoute, il n'y a pas de souci. Si tu penses que le nul contre City et la victoire contre Galatasaray te donnent le droit, si tu veux, de communiquer de la sorte, en disant on va essayer de jouer le match nul, comme ça on est sûr de se qualifier. Écoute, moi je pense que c'est la meilleure des choses pour se planter, et d'autant plus que je te dis, dans sa communication, plus ça va, moins ça va. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te trompes, tu te dis, tu t'enchaînes des défaites, tu prends 6 buts à Madrid avec des joueurs qui lâchent, et que tu nous sors et tu nous expliques que s'il y avait des choses à changer,
si c'était à faire, tu ferais la même chose.
Exactement, ouais. Tu ne changerais rien. En fait, c'est quoi cette communication? Et surtout, quand tu vois que c'est le feu dans les tribunes. Parce que la vérité, c'est que il y a pas énormément de supporters de l'AS Monaco qui vivent à Monaco en effet, donc la pression, t'as du mal à la ressentir. Mais il y a quand même des gens qui se sentent très proches de ce club-là et qui ont ce côté passion en eux. À Monaco, c'est historique. Il y a toujours eu des équipes très joueuses, des équipes qui jouaient bien au football et qui arrivaient. Tu le sais pas, des fois faute de moyens, t'arrivais quand même à déjouer les pronostics parce que t'avais un jeu pour aller de l'avant. Écoute, tu dois avoir un entraîneur qui te donne envie d'aller de l'avant et envie de les supporter, les supporters aujourd'hui, il y a un ras-le-bol, et tu crois que déjà qu'ils sont mis en grève dernièrement, là ils ont pas forcément envie de venir au stade, pourtant c'est un match décisif. Déjà, le message que t'envoies pour qu'ils viennent encourager l'équipe, c'est bon, on va jouer le match nul. Tu vois, écoute, c'est le meilleur moyen pour perdre 1-0 et puis de passer à la trappe. Alors que t'as quand même la chance, parce que c'est une chance,
d'être encore,
en vie. Et si tu as un résultat positif, t'es qualifié.
Alors, le handball, c'est la mi-temps, et c'est la mi-temps sur le plus gros écart du match entre l'Allemagne et la France, Nicolas Paul Orsi.
4 buts d'avance pour les Allemands, on prend beaucoup trop de buts, on est mené 19-15 à la mi-temps et franchement on n'a pas trouvé de solution, on a fait une fin de première période assez catastrophique. C'est inquiétant pour les Bleus qui sont pas dans le match. Va falloir inverser les choses très vite en début de deuxième.
Bon, merci Nico,
juste, vous m'avez repris, mais j'avais raison, Pocconioni n'était pas là contre Manchester City, hein.
Ah bon,
c'était contre Tottenham qu'il était là.
Ah oui, c'est vrai, Dutter avait sauvé sa tête.
La prochaine fois, me reprenez pas,
j'avais un doute, pardon monsieur Rotten. Parole à la défense, maître Dugarry.
Non mais moi je suis choqué qu'on puisse s'attaquer à mon client pour de tels propos. Il démontre juste, et il a l'image de son équipe, de son club et de ses joueurs. Ce club est à l'agonie, avec des changements de directeur sportif, d'entraîneur, en veux-tu, en voilà. Cette équipe, elle est à l'agonie. Ce soir, 9 blessés. Lui, il est à l'agonie, il a plus de solution. Même quand il prend des casquettes, il te dit, je changerai rien. Donc voilà, ce club aujourd'hui est à l'agonie. J'ose même pas imaginer, ce qu'on aurait fait et ce qu'on aurait pu dire si mon client avait dit, on va aller chercher la victoire, on va les taper, on est les plus grands, les plus forts, les plus beaux. Il arrive avec beaucoup de modestie, il sait aussi toute la difficulté qu'a son équipe aujourd'hui et toute la difficulté qu'il a lui aussi à gagner des matchs et à fournir du jeu. Donc voilà, il arrive avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de modestie. Je pense que vu la situation actuelle, il peut pas en être autrement. Qu'on puisse accuser mon client aujourd'hui d'être humble et d'être modeste, c'est la moindre des choses. Il arrive en klaxonnant il arrive en faisant le barbeau et en faisant le malin. Je vais éclater tout le monde. On dirait, mais c'est quoi ce guignol? Donc voilà, je pense qu'il a l'agonie, comme tout à l'image de son équipe et de son club. Donc il cherche à être peut-être gagne petit, mais si ça peut lui permettre de se qualifier, ce match nul, il a raison de réfléchir et jusqu'au bout de calculer.
Maître Papin.
Moi, un peu d'accord avec Jérôme sur la com. C'est vrai que J'ai du mal à comprendre de temps en temps le discours. Après, être modeste et humble en football, moi j'ai tenté, mais ça marche pas. Jamais, parce que t'es toujours rattrapé par des questions qui vont être là pour te mettre des pics, pour te mettre vraiment des emmerdes. Et après sur le discours
c'est pour ça que De Zerbi il parle comme ça.
Ouais. Non, non, mais je comprends mieux. Non, mais c'est bien. Et sur le discours du un partout, au moins pour une fois, le message il est clair. Il est clair, parce que pour moi ça l'a pas toujours été. Quand je voyais les compositions, je lisais tout ce que je voyais, et sincèrement ça me paraissait pas clair. Mais au moins là, il a 9 blessés, il sait qu'il a une équipe qui aujourd'hui est au rabais, et que si c'est un point qui lui va pour se qualifier, il va faire tout pour le faire. Et ça, je trouve ça déjà courageux de l'annoncer, mais pourquoi pas.
Le verdict de Paul, supporter monégasque, alors, qui remporte ce procès, la doublette du Gary JPP ou Jérôme Roten, la légende de Monaco?
Eh bien, c'est qu'à dire match nul, pour reprendre Philippe Oscioli, parce que tout le monde a un peu raison, et je vais reprendre un peu les
Il faut trancher quand même, monsieur le juge.
Je suis d'accord avec Jérôme. Moi, je n'apprécie pas, et Jean-Pierre, je n'apprécie pas la communication de Pocognoli. Quand l'interne avec ses joueurs, il a 9 blessés, on a beaucoup de questions, aussi bien sur Pocognoli que sur le staff qu'il y a derrière lui, parce qu'il a une tête de pro, mais il y a quand même du monde derrière lui, dont on se pose beaucoup de questions sur la compétence. Bon, aujourd'hui, ça ne laisse plus de doute. Mais il est face à des médias qui en attendent plus. La série de Monaco, c'est la plus noire de l'histoire du club. Ça n'est jamais arrivé. On parle aujourd'hui de Monaco qui a la plus mauvaise série de Ligue 1. On parle d'un club majeur. Jérôme, toi qui as porté ce maillot pendant 2 saisons et qui a fait une finale Coupe d'Europe,
tu as pu
vivre à quel point il est majeur. Moi, j'ai connu l'épopée de 2004. J'étais fier d'être supporter monégasque. Aujourd'hui...
Ah, de rien.
Aujourd'hui, tous les week-ends, j'ai peur. Et la déroute face à Madrid, au bout du 3e but, je me suis dit, bon, ça c'est fini, c'est bon, c'est pas la peine. On nous dit, il nous faut du renfort. Bon, quand il était à Reims, il était très bien. On va chercher un joueur qui est presque placardisé à Leicester, qui n'est pas en forme, qui n'a pas assez joué. Bam, 2 matchs, en tant que titulaire, il est blessé pendant plusieurs semaines.
Encore une
erreur. Pour Pocognoli, par contre, je prends sa défense sur le point où il arrive en cours de saison avec un effectif qu'il n'a pas choisi, avec un staff qu'il n'a pas choisi, avec des responsables aussi bien au niveau médical.
Après ça, il le sait aussi. Hein.
Oui, Paul, mais peut-être qu'il ne connaissait pas la gravité de la situation.
Tu donnes par la victoire contre, à Jérôme alors?
Bah oui.
Allez, je vais dire la victoire à Jérôme. Désolé pour mon frère qui est supporter marseillais, je contrarie deux grands marseillais.
On a tous des problèmes dans la vie.
Ce que je trouve déplorable de la part de Pocognoli, moi en tant que supporter et en tant que juge, c'est qu'on sait en interdit. Il a 9 blessés, il a des gros problèmes, il est sur une série noire, mais il ne peut pas se permettre, parce qu'il est en conférence de presse, il est face aux médias. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'aujourd'hui, maintenant, avec toute la technologie et les réseaux sociaux, il y a aussi tous les supporters, que ce soit ceux qui seront ce soir à Monaco ou Louis II, mais ceux qui sont tout au fond de la France. Ouais. Moi, je suis dans le Béarn, je ne suis pas content d'entendre que l'entraîneur de mon équipe préférée se dit « Bon, on va jouer le nul ». Non.
Et le discours ne te plaît pas, voilà, ça ne te satisfait pas.
Qui montre, qui dise « On va aller le plus loin possible, qu'on va essayer de se battre, on a une mauvaise différence de but, on est mal en Ligue 1, on a 2 doigts d'être éliminé en Coupe de France parce qu'on galère face à un club qui est plus petit que nous, on est mauvais partout. » Eh bien, écoutez, ce soir, on va faire la révolution contre un gros d'Italie qui nous a malmené en 2015, qui nous a malmené en 2017, et on va essayer de le battre. Purée, ça ferait du bien, ça.
Ouais, Paul.
Paul, on te souhaite un bon match ce soir.
En tout cas,
on espère que ça se passe très bien pour l'AS Monaco.
On espère quand même qu'ils vont se qualifier et qu'on arrive à avoir 3 clubs en 16e de finale.
Une large victoire de Jérôme Roten dans ce procès. Large, très large. À Christophe Dugarry et Jean-Pierre Papin. Il n'y a pas eu photo.
Les deux vieux, là.
Allez, dans un instant.
Merci, Benoît.
Roten se chauffe. On va tout savoir du club Bruges avec la légende du commentaire sportif en Belgique, Manu Jousse.
RTBF.
À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48, dans Roten sans flamme, c'est la Ligue des Champions. Oh là là, on l'aime cette musique. Grande soirée ce soir. Monaco, Marseille, Paris Saint-Germain de sortie. On est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. Bah, on va se lancer sur le match crucial pour l'Olympique de Marseille, Bruges, Olympique de Marseille ce soir. Donc on va recevoir
dans Manu Jouf, la légende de la RTBF, avec nous d'ici quelques secondes.
Et après 19h,
on parlera du PSG.
On va parler du champion d'Europe.
Est-ce que manquer le top 8, ce serait un échec pour les Parisiens? 32-16 pour participer avec nous. Et je précise qu'au handball, c'est la mi-temps, le dernier match du tour principal. L'équipe de France est menée de 4 buts, 19 à 15, la seconde période, à suivre sur RMC.
Il peut retourner s'il a retiré son maillot des Girondins.
Nico ?
Ouais, ouais.
C'est ça qui porte la guigne.
Il l'avait en dessous.
Arrêtez de porter le scapulaire.
Là, il vient de le retirer, normalement, ça devrait aller.
Ah, bah, merci. Allez, allô, Jérôme, c'est parti.
RMC, Rotten sans flamme.
Hasard pour Cavani qui est toujours là dans le grand rectangle puisqu'il était monté sur le corner.
Extraordinaire! Vincent Kompany sur le quatrième but. Et alors là, une cartache.
Oh, c'est magnifique.
Cartache.
Ah oui, là, c'est Vince the King, mais définitivement.
Allô, Jérôme.
Je salue tous nos auditeurs belges qui m'envoient plein de messages sur le numéro WhatsApp, qui sont ravis de voir que nous allons accueillir Manu Jousse, la légende de la RTBF. Salut Manu.
De Rotten sans flamme. Salut Manu.
Mais quel accueil, bonsoir les amis, et très content bonsoir, d'honorer Marie. Notre petit rendez-vous mensuel.
Ben voilà. Ben oui, on a hâte de t'entendre sur le niveau de Bruges, comme on t'a entendu sur l'Union Saint-Gilloise.
Et ça nous a porté chance en plus.
Et puis on a été malheureux les Belges sur ce match contre Marseille avec l'Union Saint-Gilloise.
Ouais.
Est-ce que ce soir tu penses que Bruges peut le faire?
Bon, alors c'est vrai qu'avant le match de l'Union, j'avais dit pour moi c'était du 50-50 et on est passé effectivement tout près avec une fin de match qu'on ne doit plus rappeler ici et quelques décisions arbitrales qui n'ont pas vraiment été favorables à l'Union. Autant ici, je vois ça comme étant beaucoup plus déséquilibré en faveur de Marseille.
Ah oui.
Parce que Bruges pour l'instant n'est pas dans la meilleure période de sa saison, encaisse beaucoup. A pris 3 buts lors de ses 2 dernières sorties à domicile et 9 sur l'ensemble de ses matchs au mois de janvier. Donc il y a des gros soucis derrière, alors que d'habitude c'est quand même une des marques de fabrique aussi du club de Bruges. Il y a l'éventuel et probable retour dans les buts de Simon Mignolet qui devrait faire du bien. Mais face au Marseille que l'on voit pour l'instant...
C'est une bonne nouvelle ça Manu, le retour de Mignolet.
Ouais. Ah oui, ben ça n'a pas l'air de l'aide pour vous.
Non. Manu, ce qui est particulier, c'est que nous, on reste sur l'image, et on était avec Jérôme d'ailleurs ce soir-là, du club Bruges, qui avait très bien démarré en éclatant l'AS Monaco dès la première journée.
Ouais.
Et après, il ne s'est pas passé grand-chose
pour accrocher Barcelone quand même.
Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que le calendrier n'a quand même pas été des plus simples. Vous avez dans vos adversaires le Bayern Munich, Barcelone, contre qui Bruges a quand même pris un point, Arsenal, enfin c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux. En fait, les dirigeants avaient dit, en voyant le tirage, on vise 3 points contre Monaco, ça a été fait, 3 points à Almaty, ça a été fait, 1 point à gauche, à droite, bon, il y a eu que celui contre Barcelone, mais déjà très bien. Et puis, on vivra sans doute une finale la dernière journée contre Marseille. Et
c'est le cas.
C'est à ce scénario-là qu'on s'expose, effectivement.
Ouais. On précise que Bruges doit gagner pour se qualifier.
Oui.
Après, il y a quand même un contexte, Manu. Alors, je veux bien entendre les problèmes de Bruges, et ça, t'es bien mieux placé que moi pour les juger en ce moment. Mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est que on se rappelle du match contre Monaco, une équipe qui est très offensive avec des joueurs très performants et d'autant plus à domicile parce que bon, moi, j'y ai joué quelques fois à Bruges. Jean-Pierre, il a joué beaucoup plus que c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère particulière. C'est jamais facile pour les équipes adverses de venir se déplacer à Bruges.
Oui, c'est vrai que c'est une donnée importante parce que quand on parlait de l'Union le mois dernier, ben déjà l'Union ne jouait pas dans son stade, à Anderlecht, c'était pas la même chose. Le 12e homme, le public du stade Jan Breydel ou de l'Olympia Park, comme on disait à l'époque de Jean-Pierre, c'est quelque chose. Ça peut transcender une équipe.
Ce soir, c'est une finale. Pour moi, c'est pas le même contexte. Tu vas jouer à Bruges. C'est quand même sur toute la partie aller de la cette Ligue des Champions, cette phase. Là, c'est le gagnant il se qualifie quoi qu'il arrive. Donc, c'est un match qui peut donner autre chose que le train-train habituel, quoi.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est une donnée importante, c'est-à-dire que Bruges doit absolument gagner. Ce ne sera peut-être même pas suffisant. Donc, va laisser des
espaces. Ce sera suffisant, Manu. Ils auront 10 points. 10 points, tu passes.
Ah, 10 points, tu passes, ouais. 10 points,
ah oui,
tu passes.
Il faut quand même voir les autres résultats aussi.
Ouais, c'est pas... mais
normalement, il y a 99% de chances de
alors,
passer.
Alors, qu'est-ce qu'on doit dire, nous, alors?
Ouais, c'est ça.
Non, mais Manu, j'ai encore deux questions pour toi. L'ambiance qu'il y aura au stade, est-ce que c'est un stade réputé pour son ambiance hostile pour les équipes adverses? Est-ce que ça va être une grosse ambiance européenne ce soir à Bruges?
C'est pas hostile.
Oui, ce sera grosse ambiance européenne, ça c'est certain. On en parle depuis très longtemps de ce match. C'est vrai qu'un stade de Bruges qui est rempli, il peut y avoir une ambiance hostile. Effectivement, parfois au niveau du championnat belge, une influence même inconsciente ou indirecte sur l'arbitrage. Bon, ici on est au niveau européen, c'est différent, mais l'équipe va être transcendée, c'est certain. Donc on n'aura pas nécessairement celle qu'on a vue péniblement battre Zulte Waregem 4-3 le week-end dernier. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Et certains joueurs, vous avez eu Forbes contre Barcelone, parfois c'est de Solis, parfois c'est Van Aken. Bon, voilà, à mon avis, certains vont vraiment sortir de leur coquille.
Et puis j'ai une autre question pour toi, mais elle concerne un autre match d'un club français, c'est donc Monaco qui va affronter la Juve. Comment vous jugez en Belgique les débuts délicats, voire très délicats, de Pocognoli à la tête de Monaco, alors qui était parti d'ailleurs en cours de saison de l'Union Saint-Gilloise?
Oui, mais un peu surpris, parce que franchement, il avait fait du très bon boulot ici avec l'Union, pas uniquement parce que l'Union était championne et était en tête du classement, mais parce que franchement, il apportait quelque chose dans son approche qui était assez audacieuse, offensive. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait installer, et que ça se passe si difficilement et même si mal pour l'instant à Monaco, n'était pas vraiment attendu, en fait.
Est-ce que dans la coupe communication, il était aussi des fois limite, parce que nous en France, il nous fait des déclarations qui sont hallucinantes. Là, on a fait le débat juste avant. Je sais pas si t'as écouté, mais on parlait de son attitude. Quand tu disais que c'est un entraîneur qui prenait le jeu offensif, qui prenait des risques, t'imagines qu'aujourd'hui, il a quand même dit, on va jouer le match nul contre la Juve, et ça, un match nul va nous qualifier.
Ouais. Non, mais c'est un genre de discours qui ne tenait pas ici, effectivement. Justement, on trouvait que par rapport à d'autres, il était moins langue de bois, parce que là, on en connaît et des dizaines. Et donc, à la fois dans son approche et dans sa communication, il était plutôt intéressant. Et il a visiblement un petit peu changé cette façon de faire depuis qu'il est à Monaco.
Manu, bon match à toi ce soir. Club Bruges, Olympique de Marseille. Et tu reviens quand tu veux pour nous parler des clubs belges ou de la sélection belge. C'est...
Puis on te rappellera si Bruges fait l'exploit alors contre Marseille.
Voilà, avec plaisir.
On le souhaite pas. On le souhaite pas.
Non, on le souhaite pas.
Évidemment.
Il m'a sapé un peu le moral sur le niveau de Bruges.
56.
Allez,
merci Manu. Bonne soirée.
Salut Manu.
Le handball. Nicolas Paul Orsi, est-ce que ça va mieux pour les Bleus début de seconde période contre l'Allemagne?
On est à moins 5.
Non, ça va pas mieux. Et franchement, je vois pas comment on peut le gagner ce match-là. C'est pas possible. 24-19 pour les Allemands. On n'a pas d'arrêt de gardien. On déjoue totalement en défense. Les Allemands sont en train de nous défoncer en défense, il faut le dire comme ça. Clairement, on n'arrive pas à gagner le rapport physique face à cette équipe d'Allemagne. Pourtant, sur le papier, les Français sont meilleurs depuis le début de la compétition. Mais là, il n'y a vraiment rien qui va. 24-19 pour l'Allemagne. Il reste 25 minutes dans ce match.
Fischer, c'est un beau bébé. J'aimerais pas le prendre.
Physiquement, c'est tous des beaux bébés.
Fischer, c'est incroyable. C'est fou.
Allez, on revient dans un instant. On y croit toujours. Et puis, on parle du PSG. Est-ce que manquer le top 8, ce serait un échec pour les Parisiens? 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
RMC 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC. C'est la deuxième heure de Roten sans flamme en mode geek des champions. On va parler du champion d'Europe dans un instant, le Paris Saint-Germain. On a déjà bien parlé de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco dans la première heure. Vous pouvez aller télécharger le podcast, vous abonner à la chaîne Roten sans flamme. C'était déjà disponible. On est avec Jean-Pierre Papin, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. Mais restez là avec nous jusqu'à 20h. On fait monter la sauce, là. Ça y est, ça arrive bientôt dans 2 heures à peu près, le coup d'envoi des matchs.
D'ici 20h, vous aurez les compos des équipes françaises engagées ce soir. C'est la grande soirée de Ligue des Champions, les 18 matchs à suivre en direct en intégralité, les compos de Monaco, de Marseille et du PSG, dont on va parler dans un instant. Il y aura le quiz à 19h45 avec un magnifique cadeau. Le maillot du PSG bleu, signé et authentifié de Vitinha, grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Pour vous inscrire, vous appelez le 3216 ou alors vous envoyez quiz par SMS au 73216. J'ai deux infos pour vous à 19h30. La première, c'est qu'on va vous raconter le putsch raté de John Textor pour redevenir président de l'OL ce matin. Ça, c'est une histoire assez
c'est fou.
Rocambolesque. Édouard G était le premier sur le coup, il va tout nous raconter. La deuxième, c'est que Ligue 1 Plus se positionne.
Qu'ils vont le virer à celui-là, là.
Ah bah justement, on fera le débat. Est-ce qu'il faut le bannir du monde du foot? Ça sera notre débat. Et la deuxième, c'est donc que Ligue 1 Plus se positionne sur la Coupe du Monde pour devenir le diffuseur payant en France de la Coupe du Monde. Il y a un préaccord avec la FIFA, mais rien de signé pour le moment. Ça coûterait 20 millions d'euros donc à Ligue 1 Plus et au club de Ligue 1. Le direct, le handball, l'équipe de France face à l'Allemagne. Nicolas Paul Orsi alors.
Oh, c'est en train de se tendre, les amis. 18 minutes dans ce match. Les Allemands sont devant. 25 pour l'Allemagne, 22 pour la France. 3 buts, on a
alors
eu
alors
des
peut-être
opportunités pour revenir à 2 buts. Ouais, mais on a trop de déchets là dans le duel tireur-gardien.
Si
ça fait
si pas, toi
deux
aussi,
attaques.
Nico.
Bah c'est compliqué, on est dominé hein, depuis le début de ce match-là. Alors rien n'est impossible. 3 buts, c'est pas grand-chose. On a surtout des arrêts de gardien là qui nous font du bien. Avec Rémi Desbonnet, le ballon pour les Allemands avec Uchins qui a failli passer, mais bonne défense française. Il y a de l'agressivité. On a haussé le curseur là dans ce secteur de jeu. 18 minutes à jouer, plus 3
points. Ça fait du bien quand il y a un gardien qui fait des arrêts.
Exactement.
Ouais.
Ah bah ouais, l'autre il a rien fait en première mi-temps.
La différence.
Ah ouais.
Allez, 19h04 sur RMC.
Ah
oui, c'est comme au foot. T'as raison. Est-ce qu'on aura le bon ou le mauvais PSG ce soir en Ligue des Champions?
7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. 1-1. Bonjour. Ramos, le but. Parisien.
Nuit.
Ça fait 2 pour le Bayern Munich. 2-0 pour les Bavarois qui viennent d'inscrire le deuxième par le même joueur, Luis Diaz.
Jour.
Vitinha qui en dans sa mode de réparation. Fin de Vitinha. Oh, mais c'est fou. Vitinha le sauveur.
Nuit.
Oh, le but. La tête de Luis Suarez, 2-1 pour le Sporting.
C'est clair que pour nous, l'objectif, c'est de qualifier dans les huitièmes premières, chercher à gagner les matchs contre une très bonne équipe comme Newcastle.
Tu as des devoirs et des obligations, et on le sait tous, frustration ou pas frustration.
Le champion d'Europe parisien doit donc attendre la dernière journée pour assurer sa place dans le top
8.
Paris-Newcastle au Parc des Princes.
Madame, c'est la Champions League.
C'est l'affiche du soir. Au niveau du classement, le 6e face au 7e de la saison régulière. D'après nos amis d'Opta, 53% de chances de terminer dans le top 8 pour le PSG. C'est une victoire quasi impérative pour assurer cette qualif directe en 8e de finale. Valentin Jamain est déjà au Parc des Princes pour RMC Sport. Salut Valentin.
Salut messieurs, bonsoir.
Salut
à
Valentin.
Tous.
Bon, quelle est l'importance de ce rendez-vous pour Paris? Est-ce qu'on le prend comme un match crucial et décisif pour le parcours européen?
Décisif, oui, crucial, on va pas non plus exagérer au niveau des termes. On a un petit peu dédramatisé toutes ces dernières semaines du côté du PSG. Alors évidemment, hein, ce soir c'est opération top 8 parce que basiquement Paris veut gagner tous ses matchs, surtout à domicile, parce que ça enlèverait aussi de la pression aux Parisiens sur un éventuel barrage. Ça allégerait leur calendrier et ça leur permettrait de travailler un peu plus à l'entraînement, mais on a bien senti que Paris n'en fait pas une obsession de ce top 8. C'est comme ça un petit peu aussi qu'il faut traduire le discours de Luis Enrique. Il était allé un peu plus loin, rappelez-vous, à Lisbonne. Il disait presque que ce serait mieux de ne pas être dans le top 8, ça pourrait nous faire un barrage, avoir du rythme. Donc l'idée c'est quand même de dire qu'on dédramatise à Paris l'enjeu de la qualification directe pour les 8e de finale. Hier, Luis Enrique il a même dit, c'est un peu évident mais on a compris l'idée, bah, je préfère finir 15e et gagner la Ligue des Champions que terminer 6e et pas aller aussi loin que l'an passé. Voilà, je signe pour être barragiste et gagner à la fin. Donc pour lui c'est pas maintenant que ça se joue, il attend avec impatience et vraiment une grande impatience les matchs à élimination directe où il dit que son équipe est très très dure à battre dans ces moments, même si évidemment ce soir au Parc, Paris veut finir le boulot. On a reposé Hakimi ce week-end, on a reposé Nuno Mendes ce week-end à Auxerre. C'est bien pour battre Newcastle alors qu'il y a plein de blessés qui reviennent.
Merci Valentin. Roten se chauffe. Est-ce que manquer le top 8 ce serait un échec pour ce Paris Saint-Germain? 32-16, Jérôme.
Un échec, le mot est dur, mais ça serait une contre-performance, ça c'est sûr, parce que l'objectif du club, ils ne sont pas cachés, c'est de s'éviter le barrage, le 16e de finale comme l'année dernière. Je pense que par rapport au parcours du début et les résultats qui ont tourné en faveur du PSG, très vite ils se sont dit on va finir dans les 4. Après, ouais. Vu qu'il y a eu des résultats mitigés et une défaite par-ci, un match nul par-là, ils se sont dit bon bah on va essayer de finir dans les 8. Et je te le dis parce que j'ai échangé hier avec la plupart des acteurs au Paris Saint-Germain et ils te disent une chose, c'est que on n'a pas eu de jour de repos depuis la reprise là, depuis le nouvel an.
Pas un jour de coupure.
Il n'y a pas eu un jour de coupure. Que il peut y avoir aussi un ras-le-bol au bout d'un mois quand il n'y a pas de coupure parce que t'enchaînes tous les trois jours, t'as les déplacements au Koweït, t'as ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Il y a eu les blessures aussi de certains joueurs. Il fallait les remettre sur pied. Aujourd'hui, il n'y a plus de blessures. Tous les joueurs sont aptes. Alors, on va te dire qu'en Gingli, il est pas encore là et Njantou pareil.
Ruiz aussi.
Mais ouais. Ruiz. Mais depuis hier soir, ça c'était.
Il s'est entraîné. Hein.
C'était hier soir, il s'est entraîné. Donc il y a aussi une gestion par rapport à ces joueurs-là. Mais ils sont quasiment tous opérationnels. Alors, aujourd'hui, et ils te disent donc une chose. Si on gagne et on finit dans les 8, on aura 5 semaines de suite à un match par semaine vu qu'il n'y a plus la Coupe de France. Donc là, ça sera l'occasion de faire souffler les têtes, les organismes de certains. Et l'objectif du club, il est bien là. Donc moi, je veux bien qu'on dédramatise ce match, mais il est hyper important pour la suite.
Oui. Voilà.
Donc le PSG doit faire tourner le compteur. Newcastle, c'est pas non plus un ogre européen. On l'a vu, des résultats mitigés.
Ils sont septième quand même.
Non, mais d'accord.
Ils ont pas croisé de club anglais.
Ils ont perdu à Marseille.
Ils ont perdu à l'extérieur. Ils ont beaucoup de mal. Beaucoup de mal. À domicile, c'est autre chose. Mais là, c'est un match au Parc des Princes. Donc, en toute logique, il y a 2-3 absents importants aussi du côté de Newcastle.
Oui. Guimaraes, incertain d'ailleurs, hein, Valentin.
Oui, Guimaraes, incertain. Il a raté le match ce week-end. Et depuis qu'il est arrivé en 2022, en première ligue, quand il n'y a pas de Guimaraes, il n'y a pas de victoire.
Ouais, c'est fou.
Ça, il est incertain. Il s'est entraîné hier, mais il pourrait ne pas débuter.
Duga, est-ce que ce serait un échec de ne pas faire top 8 pour le PSG?
Oh bah oui, quand tu es tenant du titre, de pas te qualifier dans les 8, oui, ça serait une contre-performance. Après, ça remet rien en question, bien évidemment. J'avais pas trop compris, moi, le discours de Luis Enrique il y a quelques semaines de ça, où il nous expliquait que ça serait pas mal
pas
de pouvoir faire.
Voilà,
j'avais dit non, mais n'importe quoi. Je veux bien qu'on me fasse avaler des couleuvres et que je comprends pas grand chose. Mais là, je trouvais que c'était un peu fort de café. Il est revenu à la raison, tant mieux. Bien évidemment que Paris doit se qualifier, doit finir dans les 8 premier, et Paris va le faire. Ils vont les éclater, Newcastle. Newcastle, c'est pas du tout la même équipe à domicile qu'à l'extérieur. Et à l'extérieur, ils éprouvent les pires difficultés. Donc voilà, sincèrement, j'ai aucun doute sur le fait que ce soir, ça va être une belle victoire avec la manière du Paris Saint-Germain.
JPP, ce sera un échec alors ?
Non, ça serait une déception. Ce serait une grosse déception parce que quand on a les ambitions du PSG, qu'on est champion d'Europe en titre, finir dans les 4 premiers, ça serait normal. Après, quand on voit ce qu'ils ont fait l'année dernière, sincèrement, je suis pas inquiet non plus pour eux. Je partage un peu l'avis de Dugas, c'est que je pense qu'ils vont les éclater aussi ce soir au parc. Mais Paris, ça reste Paris avec au moins autant de force que l'année dernière. Donc, je pense qu'ils vont se qualifier dans les 8 premiers. Ils vont attendre tranquillement. Ils vont pouvoir récupérer un petit peu et après, c'est sûr que en match aller-retour, c'est pas du tout la même équipe. Comme l'OM d'ailleurs. Attention, en match aller-retour, c'est pas la même chose.
Ah, voilà, JPP. Une parole de sage.
Bon, ça y est, il annonce la couleur.
Le handball.
Mais autant l'annoncer de suite.
Nico Pollard, c'est contre l'Allemagne. Incroyable.
Ah ouais, on est en train de revenir. Il reste 12 minutes. Est-ce que les deux vont réussir à renverser cette Allemagne? C'est pas fait parce que les Allemands ont le ballon du plus de dans les mains. Mais c'est vrai qu'on est dans un temps fort. Hutchins qui est bien défendu. Ludovic Fabregas. Il y a un tir à l'aile pour l'Allemagne. Arrêté par Rémi Desbonnets. Mais il y aura un penalty pour les Allemands après cette défense en zone. Et on a un joueur stratosphérique. C'est Dika même qui est à 9 sur 11. 9 buts marqués. 6 passes décisives. Sauf qu'il a eu des crampes et qu'il a été obligé de sortir. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Bleus. Il y aura un 7 mètres pour l'Allemagne, un pénalty. Il reste un peu plus de 11 minutes dans ce match et les Allemands ont un ballon pour garder 2 buts d'avance.
Ouais. Une heure d'autonomie, ça nous rappelle une autre patte gauche, mais dans le foot cette fois, il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Dugas et JPP et encore. Ouais. Je vous trouve très confiant quand même. Vous me dites, ils vont éclater Newcastle et tout, mais rassurez-moi, vous les avez vus les derniers matchs du PSG ou pas? Parce que bon, ouais, l'efficacité.
Et Newcastle, tu les as vus?
Non, d'accord, mais bon, tu bats aussi 1-0, tu perds au Sporting. Il n'y a pas vraiment de grand match référence depuis le début de l'année 2026. Hein.
Bah, même ils ont emmené 2-0, ils en ont mis 5 à Tottenham. Donc si tu veux.
Alors moi, je te cache pas que j'ai du mal à être inquiet, même quand je vois des contre-performances du Paris Saint-Germain, même s'ils sont moins dominateurs, même si tout fonctionne moins bien que la saison dernière. Mais j'y vois et j'y trouve des explications. Alors je me trompe peut-être, mais moi j'ai du mal à m'inquiéter pour ce Paris Saint-Germain là, moins dominateur, moins performant. Pour l'instant, j'ai du mal à me mettre dans cette idée-là.
Il y a des joueurs qui sont pas encore au même niveau que l'année dernière.
Et ils vont pas jouer toute la saison comme ça, donc ils vont pas avoir toute la saison des blessés, ils vont pas avoir toute la saison des joueurs entre guillemets pas à 100%. Ça peut arriver, attention, ils peuvent tomber sur une saison noire avec des blessures à répétition, avec des joueurs qui arrivent pas à retrouver leur niveau, avec il peut tout se passer. Mais j'ai du mal à y croire à ce scénario-là.
Voilà. Je vous trouve très indulgent quand même. Franchement,
tu peux, c'est certainement vrai.
Cette saison, ils ont gagné que 3 matchs à l'extérieur, Newcastle. Là, on est en janvier, donc ils sont vraiment très grande difficulté.
Que Newcastle ne soit pas un grand d'Europe, on est tous d'accord. Ouais. Mais si on se concentre un peu sur les prestations récentes du Paris Saint-Germain.
Benoît, si on se concentre.
Et en jouant mal, ils sont 6e, t'imagines.
Et contre le Sporting, tu mérites.
Non, mais ils avaient très bien démarré le PSG, souvenez-vous. Ils gagnent à Barcelone, ils éclatent dès le début l'Atalanta.
Là où je suis d'accord avec toi, Benoît, parce qu'on est bien placé. Nous, on voit quasiment tous les matchs. Tu viens aussi très souvent au Parc des Princes et je sais que t'es très concentré. Et surtout, tu as très envie d'y aller à chaque fois, donc ça fait plaisir.
J'y serai ce soir.
Ce que je veux dire, c'est que les matchs de Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est moi ce que je leur reprochais il y a X mois et X années au Paris Saint-Germain, c'est de ne pas en faire un événement. En effet, je pense qu'en effet, l'année dernière, il y a eu un déclic de ce côté-là, le déclic peut-être contre Manchester City au mois de janvier, et que l'approche sur ces matchs de Ligue des Champions est différente. Et tu vois, tu regardes. Depuis le début de saison, en Ligue 1, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui ronronne. À l'extérieur, par moment, même en Ligue des Champions, peut se faire attraper. Sauf qu'au Parc des Princes, franchement, il y a eu le match du Bayern. Mais bon, il y a l'état du Bayern et l'état du PSG à ce moment-là, où il y avait des retours de blessures, des mecs qui étaient en méforme. Aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont quand même meilleurs. Ils l'ont montré.
Donc le même scénario qu'au Sporting, c'est impossible.
Bah, impossible.
Tu domines et tu te fais contrer deux fois.
Au Parc des Princes, je vais te dire, ils ont une exigence qui est incroyable.
Ils ont pu sortir par le Paris FC en Coupe de France.
Non, mais en Ligue des Champions, je te parle. Au Parc des Princes, ils ont une exigence. Ils se mettent en mode Ligue des Champions, en mode rouleau compresseur.
Donc, il y a un bouton, alors.
Et je pense, qu'en effet, ils arrivent à faire des matchs qui sont bien plus conséquents en Ligue des Champions qu'en championnat ou en Coupe de France. Et que, en plus de ça.
Et puis l'adversaire aussi.
Oui, t'as l'adversaire aussi.
Moi, je l'ai toujours dit, pour jouer au football, il faut être deux, les amis.
Oui, mais arrêtez de me faire passer Newcastle pour une équipe de peintres. Newcastle, ils peuvent se qualifier pour le top 8 aussi.
Mais c'est pas non plus un grand.
Mais oui, exactement. Mais Newcastle, chez eux, Dugas, Jean-Pierre et moi, on peut te le dire parce que on y a joué là-bas contre Newcastle. C'est une ambiance de malade. Ça a jamais changé et de toute façon, c'est toujours très compliqué pour les équipes adverses. Et le PSG le sait parce qu'ils en avaient pris une bonne il y a quelques années. Mais à l'extérieur, Newcastle, c'est pas la même équipe. Tu le vois. De toute façon, il y a juste à regarder. En plus, là, ils ont des joueurs absents. Un joueur important, peut-être Guimaraes, qui sera pas là. Écoute, heureusement que le PSG n'a pas de crainte particulière à avoir de ce Newcastle.
Pas une crainte. Si là, le PSG se fait taper là ce soir, sincèrement, je serais
inquiet.
Peut-être prêt à revoir le bon jugement. Parce que c'est un match décisif, c'est un match très important, c'est un match qui aura une incidence sur leur calendrier, sur la confiance, sur plein de choses. Moi, je peux te garantir que là, je changerai peut-être d'avis.
Newcastle à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison, c'est victoire 4-0 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, défaite à Marseille 2-1, mais souvenez-vous des circonstances.
Oui, ils ont perdu.
Marseille fait la diff en 5 minutes. Et ensuite, c'est un nul à Leverkusen, 2 partout.
Donc,
c'est pas non plus ridicule.
Non mais Leverkusen, tu l'as vu, l'état de Leverkusen cette année, c'est plus Leverkusen de Xavi Alonso. Hein.
D'accord, donc il n'y a que des nuls en fait, en Ligue des Champions.
Bah non mais
franchement, ils sont 20e. Ils sont
c'est pour ça que Marseille va se qualifier, c'est ça.
D'accord, c'est ça. Leverkusen, ils peuvent se qualifier pour les barrages. Hein,
mais tu l'as vu dans leur championnat, comment ils galèrent.
Oui, d'accord.
Non, mais
bon.
Arrête. Bon. Ce que je veux dire, c'est que y a pas, c'est pas exceptionnel ce que nous fait Newcastle. Okay. Et même en termes de compte, et puis de toute façon, c'est toujours pareil. Le PSG, et maintenant, il y a un statut, ils sont champions d'Europe au Parc des Princes.
Okay.
L'objectif, je te le dis, même s'ils ont du mal à l'avouer, l'objectif, c'est de finir vraiment dans les 8 pour s'alléger un peu le calendrier sur les prochaines semaines. Donc, ils sont en mode, on doit gagner en mode Ligue des Champions, il n'y a pas le droit à l'erreur. Voilà. Et si, en effet, comme Duga, il le dit, parce que ça reste un match de foot, tu peux te faire attraper contre une équipe, eh ben là, il faudra peut-être revoir nos copies et nos analyses, parce que il y aura peut-être des motifs d'inquiétude à avoir.
Avant d'accueillir Florian au 32-16, le handball, est-ce qu'on y croit encore, Nicolas Paul Orsi?
On y croit encore, mais c'est irrespirable, hein. Il reste un petit peu plus de 7 minutes dans ce match. Les Allemands sont toujours devant d'un but. 31-30. Le problème, c'est que le ballon, il est dans les mains, des Allemands. Il faut faire un stop, là, pour avoir une balle d'égalisation. Je vous rappelle qu'un match nul, ça profite pas à l'équipe de France. Il faut vraiment gagner ce soir pour espérer voir les demi-finales. À Erling au Danemark, le croisé Yorick Nord qui va trouver Semper. Superbe défense là des Français avec Fabregas qui met un gros tampon. Lichtlein qui a du mal à trouver des solutions. Le tir de loin, allez, on va avoir un ballon pour égaliser. Ce tir est contré, dévié par Rémi Desbonnet. Il reste 7 minutes dans ce match. Ballon pour les Bleus pour égaliser.
On va égaliser.
Ouais, c'est vrai que la dynamique du gars, t'as raison, elle est en train un peu de s'inverser, notamment dans le rapport de force avec la défense française, là, physiquement, qui est en train de faire un chantier. Fabregas, Brillet et Karl Konan, là, c'est en train de faire très mal. Et il y a Aymeric Mine, le demi-centre des Bleus, qui commence à marquer des buts. Allez, Melvin Richardson, Thibaut Brillet, à l'intérieur, pour Tournant. Oh, l'énorme arrêt! C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, et celui-là, il fait très très mal au casque des Bleus. C'est minute 30. 31-30 pour l'Allemagne, ballon pour les Allemands.
On peut pas rater ça.
JPP face à face comme ça. 19h18, est-ce que ce serait un échec pour le PSG de ne pas accrocher le top 8? Parlons-en avec Florian, qui est supporter parisien et qui est au 32-16, Jérôme.
Salut Flo.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Flo. Bonsoir. Écoute, qu'est-ce que tu penses déjà de ce match ce soir du Paris Saint-Germain? Est-ce que toi t'attends une victoire? Et puis oui, en effet, s'il n'y a pas victoire et que le PSG termine pas dans les 8, est-ce que c'est un échec?
Alors déjà, oui, moi je pense que ce soir Paris doit gagner. Ils sont à domicile, chez eux. On sait que c'est toujours des matchs importants à domicile, sachant qu'ils ont aussi leur destin entre leurs mains. Donc s'ils gagnent, et ils sont champions d'Europe. Et c'est aussi ça que je voulais dire, c'est, ils sont champions d'Europe, ils doivent assumer leur statut de favori ce soir face à Newcastle. Et évidemment, si c'est une contre-performance ce soir, comme vous l'avez dit, il faudra revoir les attentes qu'on a sur cette saison. Vis-à-vis de des joueurs aussi, parce qu'on voit que des joueurs sont en méforme également. C'est aussi l'occasion ce soir de se montrer en prouvant qu'ils sont encore présents, on va dire, dans l'esprit du club.
Tu crois à ce côté bouton on-off en Coupe d'Europe, ce qu'a dit Jérôme, quand il y a la Ligue des Champions qui plus est au Parc des Princes, ça peut tout changer et métamorphoser l'équipe?
Oui, moi je pense. Je pense que on va dire, on le sait très bien que s'ils veulent prouver quelque chose, il faut qu'ils fassent. Ça passe par la Ligue des Champions. On sait tous que la Ligue des Champions, c'est le plus haut en Europe et le plus vu, surtout. Donc s'ils veulent prouver quelque chose, c'est en Ligue des Champions. Donc je pense que ce soir, il n'y a pas de raison qu'ils fassent une contre-performance.
Oui, oui. Non, mais en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, Benoît, dire, il y a juste à voir les joueurs. Alors ceux qui ont été blessés sur la première partie de saison, bien sûr qu'il fallait leur laisser le temps de retrouver une condition physique digne de ce nom. C'est le cas. Maintenant, il y a aussi de la gestion. Et là, ils se sont mis en mode. Moi, je te parle de Dembélé. Dembélé, il s'est blessé une fois, une deuxième fois. En effet, la première partie de saison, on a eu l'impression aussi qu'il avait du mal à digérer tout ce qui s'était passé de très bien pour lui les 6 premiers mois de l'année. Il y a pas de problème, tu peux l'entendre, tu vois, le mec il a gagné, il a eu le ballon d'or, c'est fantastique. Mais un mec comme ça, là maintenant, il sait que il faut faire tourner le compteur, il faut enchaîner. On l'a vu, moi je l'ai vu contre Lille. Franchement, les deux buts et surtout le deuxième but qui marque, ça montre le talent et ça montre aussi dans l'état où il est, c'est que maintenant il s'est mis en mode où je vais redevenir important et faire gagner mon équipe. Et je pense que ces matchs-là, plus que les matchs, je vais te dire, moyens de championnat qu'ils ont pu faire dernièrement, à commencer par le déplacement à Auxerre où ils ont gagné à l'arrache.
Ils ont envie de briller là.
Ce soir, je serais déçu de voir Dembélé, de voir Doué au même niveau que sur certains matchs, surtout Doué aussi. Doué,
tu l'attends au tournant, Désiré Doué.
Oui, parce que.
Merci à Florian qui est venu au 32-16.
Et ces mecs-là, s'ils se mettent en mode Ligue des Champions comme l'année dernière, franchement, c'est compliqué pour les équipes adverses.
Allez, on revient dans un instant dans Rotten sans flamme avec Jérôme Rotten, Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin. Deux infos à vous donner. Le putsch tenté par John Textor pour redevenir le patron de l'OL et Ligue 1+ qui veut investir sur la Coupe du Monde. Et surtout, on aura la fin de match du handball. Le score et le temps qu'il reste à jouer, Nicolas Paul Orsi, entre la France et l'Allemagne.
les 5 dernières minutes. On vient d'entrer à peine dans ces 5 dernières minutes. Les Allemands mènent de 2 buts, 33-31. On a un ballon pour revenir à un petit but de l'Allemagne.
Allez, la fin du match dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h25 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, on continue l'émission, il y a beaucoup d'actu. Alors déjà, il y a la Ligue des Champions, le football avec Christophe Dugas, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. On est là depuis 18h, donc on analyse tout ça et c'est pas fini. Et puis il y a surtout du hand.
Oui.
Nico Paul Orsi, il en est où ?
Dugas aurait dit que les mouches avaient changé d'âne. On peut dire aussi que la messe semble dite pour l'équipe de France, là, Nico, là.
Aïe. On se dirige vers un nouveau fiasco, un nouvel échec pour le handball français masculin après les Jeux de Paris, après une défaite l'an dernier en demi-finale des championnats du monde contre la Croatie, une sélection qui est à notre portée sur le papier. Les Bleus ne vont même pas accéder aux demi-finales de cet Euro. Alors ils sont menés de 4 buts, hein. Il reste moins de 2 minutes dans ce match, 36-32. C'est vrai que ce tour principal était très costaud, avec que des nations médaillables sur le papier dans les 6 équipes qui composaient cette poule. Mais la France va s'incliner 3 fois dans cette compète, contre le Danemark, contre l'Espagne et donc face à l'Allemagne.
Au niveau,
quand on voit les individualités qui composent cette équipe, clairement, ouais, Jérôme, non, mais ils sont pas au niveau.
Il y a que des joueurs, le sélectionneur,
qui sont des numéros 1 dans leur poste. Alors c'est vrai que le bilan de Guillaume Gilles, il va commencer à se poser. C'est vrai que son nom fait à chaque fois débat dans le coaching, surtout dans les résultats. Et bien évidemment, ce dossier va être ouvert à nouveau parce que cette équipe, elle a clairement le potentiel pour gagner. Je vous le dis, il y a que des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens, qui jouent la Ligue des Champions et qui sont les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Donc forcément, il va y avoir des débats après cette nouvelle défaite. 1 minute 40 encore au chrono, le ballon dans les mains de Dick même avec Thibaut Brier. L'exploit est impossible, hein, clairement, mais on sent que les Bleus ont posé un dernier temps mort pour essayer de se rassurer. Dick même sur une jambe avec des crampes, qui va marquer son 11e but du match. 11 buts, 6 passes décisives. Il a été fabuleux, Dick même. Lui, au moins, il aura lavé l'affront des Jeux Olympiques et de cette perte de balle à 6 secondes de la fin. Il aura tout donné pour son pays, mais franchement, le reste de l'équipe n'aura pas forcément été à la hauteur. C'est surtout collectivement et défensivement qu'on n'a pas réussi à faire de différence. Les Allemands ont le ballon dans les mains, il reste un petit peu plus d'une minute. Julian Koster face à Raimi Desbonnaires, on va souffler un marché, ballon pour les Français pour essayer de recoller un petit peu. Thibaut Brier, allez, faut prendre tous les risques, même si c'est impossible, hein. Là c'est même plus de l'ordre du miracle, c'est impossible tout simplement, le décalage à l'aile pour Hugo Desca qui va marquer pour les Bleus. On se réveille trop tard, mais que c'est dommage. Que de regrets pour cette équipe de France. 36-34 pour l'Allemagne, il reste 45 secondes et le coach allemand qui pose un dernier temps mort pour éviter une dinguerie. Mais je vous rappelle qu'il faut quand même que l'équipe de France gagne cette partie. Un match nul ne suffirait pas aux Bleus. Marquer 3 buts en 45 secondes, c'est impossible. Et franchement, vous en faites beaucoup des débats sur les sélectionneurs français. Il y a un vrai débat.
On a surtout Rotten sélectionneur.
Je peux pas transformer en sélectionneur du hand. Hein. Sélectionneur de l'équipe de France de football. Donc, mais bon, on s'en occupera plus tard.
Ah, ne ris pas, hein, Nico. Attends, c'est un carton, Rotten sélectionneur.
Nous, en fait, à RMC.
Ah, ça, j'ai bien vu. Et puis, j'ai vu la liste. Ça
serait pas pire. Hein.
On sait pas pire.
Les attitudes sont dépitées. Hein. On voit Guillaume Gilles là, qui a. Je sais pas ce qu'il a dit à ses joueurs. On n'a pas les temps morts, là, nous, ici, depuis le poste commentateur. Mais il a pris la plaquette. Il est resté même pas une trentaine de secondes. Il a regagné son banc de touche. Encore une fois, l'Allemagne. Alors, c'est très belle nation du hand, hein. Franchement, sur le papier, c'était 50-50. Mais cette équipe a largement les moyens de battre cette équipe d'Allemagne.
Jérôme Sillon, il n'est pas avec toi.
Non, il n'est pas avec moi, Jérôme.
Non, parce que c'est lui.
Attends, mais Nico aussi, c'est un chat noir. Nico, c'est un sacré chat noir.
Non, pas Nico.
Déjà, c'est lui qui suivait les Girondins.
Ouais, j'ai le double titre olympique à Tokyo, hein, avec les équipes de France.
Ah oui, quand même. Ah ouais, non, ça, c'est petit, ça, Benoît, ce que tu dis à Nico.
J'ai le double titre. C'est bon, ça.
J'ai le double titre.
Bien évidemment.
C'est grâce à toi.
Je plaisante. On n'y est strictement pour rien dans les performances des joueurs, je vous rassure. Les ballons, le ballon pour les Allemands. Dernier ballon, le public de Herning est debout, parce que bien évidemment pour les Danois, l'équipe de France qui sort
au Wiedersehen,
c'est
allez hop,
C'est terrible, 5 secondes, Rémi Desmoulins dépité, le dernier but des Allemands, la France est éliminée de ce championnat d'Europe, la France ne verra pas les demi-finales, c'est une nouvelle désillusion pour le handball français qui est en train de passer à côté de cette génération qui a pourtant des talents exceptionnels, mais cette équipe de France-là n'y arrive plus, n'y arrive pas, défaite 38-34 contre l'Allemagne.
Merci Nico, donc c'est terminé pour l'équipe de France à l'Euro de handball, Nico Poller, qui a deux titres olympiques, mais qui a Gérard Lopez aussi, du gars. Et ça, ça équilibre un peu tout, malheureusement. Allez, 19h30.
On va lui envoyer Textor, ça va lui faire les pieds.
Oh là, bah justement, tiens, on en parle, parce que l'arbitre vidéo nous appelle.
Jérôme, oui. Je t'invite à écouter ça.
John, pas de regret, ok, vous êtes en colère, donc votre objectif ultime, c'est peut-être de revenir, alors, à la tête de Lyon.
No, it's just one of those provocative questions that you're sort of you're supposed to throw out there. Michelle's
non, c'est pas provoque du tout.
Who says I want to come back?
Mais non,
l'avare de Rotten sans flamme.
Et pourquoi vous avez dit que non? Mais nouvelle dinguerie donc de John Textor, incroyable.
Lui, c'est des champions du monde du mensonge.
T'as vu ce qu'il m'a dit? Alors, en plus, lui, il me dit c'est pas bien.
D'où tu sors ça? D'où tu sors cette idée? C'est polémique.
C'est fou.
Polémique.
Où tu as entendu ça?
Donc cette tentative de pouille de l'homme d'affaires américain pour reprendre le contrôle de l'Olympique lyonnais.
C'est dingue.
L'Assemblée Générale, c'était ce matin, une tentative qui a échoué grâce à la résistance de Michel Kang et du fonds d'investissement Arès. Le premier sur le coup, c'était Edouard G qui est avec nous. Salut Edouard.
Salut Jérôme, salut Edouard. Les gars.
Bravo
salut
Edouard.
Déjà bravo.
Bravo d'avoir tenu Edouard.
Ouais, et il faut que tu nous racontes cet épisode complètement lunaire une nouvelle fois.
Alors, tout part, tu l'as dit, de cette Assemblée Générale convoquée pour aujourd'hui 11h. Et du coup, deux des trois administrateurs les plus importants, ceux qui contrôlent 87% de l'OL, votent. Alors ça, c'est totalement logique, réglementaire, obligatoire, dimanche. Donc, ils font passer leur vote par correspondance. Le troisième administrateur est un petit peu agacé par ces votes. Et ce troisième administrateur, c'est le patron des deux autres. Et ce troisième, c'est John Textor. Qu'est-ce qu'il décide? Eh ben, il décide de partir dans un putsch. Il va débarquer les deux administrateurs qui viennent de voter. Il décide donc qu'ils sont révoqués. Donc, leurs votes ne sont pas légaux. Et tout ça, il le dit par mail à l'OL, donc à Michel Kang et à Michael Gerlinger dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, vous imaginez lundi matin la sidération du bord de Lyonnais qui entre à ce moment-là en résistance, qui consulte un petit peu ses avocats. Et les avocats regardent et ils cherchent une faille et ils la trouvent rapidement parce que John Textor a oublié un détail, c'est qu'il a oublié de demander à son banquier Arès l'autorisation de procéder à cette manœuvre. Et ben oui, parce que il aurait dû le savoir, lui l'Américain, qu'il dépendait de l'argent du banquier, de son prêteur qui a le vrai pouvoir. Et du coup, la nuit dernière, la réplique est sanglante d'Arès avec un courrier où la deuxième ligne est signifiée la phrase suivante, la révocation de John Charles Textor en tant que directeur de la compagnie avec effet immédiat. C'est donc l'arroseur arrosé, celui qui voulait débarquer, eh ben, est débarqué. Le coup d'État fait long feu. L'OL est passé, messieurs, à côté d'une nouvelle tempête parce que vous imaginez que, bien évidemment, John Textor voulait arriver aujourd'hui physiquement à Lyon pour une motion de censure, comme on dirait en France, et débarquer donc Michel Kang et Michael Gerlinger. Donc Michel Kang a sauvé, on va dire, une deuxième fois l'OL. Ça, c'était avant 9h, avant 11h ce matin. Et ensuite, ben, l'Assemblée Générale, comme on dit, après la tempête, le calme. L'Assemblée Générale a pu se dérouler tranquillement avec deux moments symboliques. Les actionnaires minoritaires ont voté contre la rétribution de John Textor. Eh bien oui, parce qu'il y a quand même, messieurs, 2 millions d'euros pour sa société, pour les frais de gestion. Et donc 30 000 euros pour lui directement. Donc il va quand même toucher de l'argent. C'est un geste symbolique de ces actionnaires minoritaires. Et surtout, deux salles, deux ambiances. Michel Kang, elle, a proposé la résolution numéro 7, selon laquelle elle ne touchera rien de l'OL cette saison.
Bravo, Madame Kang. Faut-il bannir John Textor du monde du foot? Comment vous réagissez déjà à ce putsch?
De toute façon, moi, ce que j'ai à dire.
Ben oui, bien sûr.
Je précise juste qu'il nous dit que c'est tout faux, ce que j'ai écrit.
Ah oui, alors lui, il contredit cette version, mais bon.
De toute façon, il n'arrête pas de contredire. Nous, quand on l'a fait longuement, très longuement, il nous a limite bien endormi.
Il nous a dit qu'on était un tabloïd.
Qu'on était des tabloïdes et que ceci, cela.
C'est que de l'esbrouf.
Bah, je sais pas. Vas-y, Jean-Pierre.
C'est que de l'esbrouf, ce mec. C'est à chaque fois que. Il fait tout et rien en fait. Il propose, il fait de la cavalerie partout. Il achète, il va prendre des joueurs qu'il a déjà dans un autre club pour le mettre. Il paye pas. Enfin bref, c'est la magouille à temps complet quoi. Et là, tu reviens à Lyon, tu les remets dans le même bordel que l'année dernière. C'est incroyable, incroyable.
Du gars, c'est tout ce que tu détestes.
Non, mais tout ce qu'on déteste tous, on est des amoureux du football sur le plateau, voilà. J'espère que c'est la dernière fois qu'on parle de ce type, voilà, sincèrement. Ouais. Et moi, ce qui m'épate toujours dans ce genre de truc, c'est que ces gens qui sont censés être des gens plutôt brillants, qui ont réussi dans les affaires, c'est-à-dire que le mec, il a réussi quand même à se faire prêter 480 000 euros par Arès. C'est-à-dire que moi, j'aimerais beaucoup connaître le mec de chez Arès, quoi. C'est-à-dire, t'as prêté à ce guignol 480 millions d'euros. Non, mais le mec, et puis.
T'as raison.
Et puis, c'est toujours ça qui m'épate, ces gens qui sont brillants, qui sont chefs d'entreprise, qui ont monté des fortunes et des milliards et des milliards, et tu te dis, mais les mecs, c'est des génies. Ah non, mais c'est des génies. Puis une nouvelle fois, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'après, ces gens-là s'étonnent et arrivent avec des grandes paroles à te dire oui, je comprends pas que les Lyonnais ne m'aiment pas, tu vois. Ou à Bordeaux, Lopez qui te dit je comprends pas que les Bordelais ne m'aiment pas, ne m'apprécient pas, je sais plus quoi faire
j'aime
pour
le club apprécier. En plus,
ouais, j'aime le club. Ils sont toujours pleins de phrases comme ça, tu sais. Alors, il a failli un coup racheter Lille, après, il a fallu racheter Marseille, après, il a racheté lui. Voilà, tout ceci, lui, c'est Botafogo, après c'est Lyon, après c'est le club belge, après c'est ces gens-là.
Crystal Palace, il avait aussi.
À Crystal Palace aussi. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils jouent en toute impunité et sans aucun respect, sans aucune limite.
Ils s'en foutent de perdre de l'argent.
Avec nos clubs, avec nos maillots, avec nos, avec ce qu'on a pu faire, quoi, et ce qu'on a pu aimer. Nous, c'est l'amour simple, noble. On a tous été, moi, à Chaban-Delmas, quand j'étais petit, quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, c'est des souvenirs de vie. Alors qu'eux, ils arrivent, ils te saccagent tout ça avec mépris, sans aucune. Je suis choqué qu'on puisse montrer aussi peu d'humanité en définitive, parce qu'il y a des gens, comme le disait tout à l'heure la supportrice de l'OM, qui font 700, 800 kilomètres, qui payent des centaines d'euros ou des milliers d'euros par an pour aller voir leur équipe préférée, qui achètent des maillots, et moi cette inhumanité qui me fait de la gerbe en définitive, tu vois.
Là où t'as raison là-dessus sur la relation humaine qui n'a pas, c'est que t'imagines quand même ce qu'il tente là, le coup d'état qu'il a tenté. Imagine juste ça marche.
Ouais,
il revient à Lyon.
Alors que
comme
Lyon
ça.
Se relève de manière admirable.
Non mais quel but, parce que de toute façon tu sais que tu vas pas être le bienvenu, toute façon que tu peux pas rester. Mais le mec il en a rien à carrer en fait. Il se dit bah écoute tiens, vous m'avez fait du mal, parce que lui c'est ce qu'il pense. Vous m'avez fait du mal à me retirer. Là l'équipe elle va bien. Et écoute c'est quoi, je vais virer l'équipe dirigeante aujourd'hui et je vais revenir. Non mais c'est ça qui est complètement fou quoi.
Lyon, on est sûr que Lyon est définitivement débarrassé d'ailleurs.
Oui, Arès a décidé. Oui. Physiquement, il est en. Alors, il n'est plus là parmi ses trois administrateurs. D'ailleurs, il a été coopté un autre administrateur pour la structure OL Football Group. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors après, il peut y avoir des batailles juridiques et financières qui vont avoir lieu dans les coulisses et dans le
secret. Qu'est-ce qui se passe pour Botafogo?
Après, t'as raison, Jean-Pierre, parce que derrière, c'est en train de tout s'effondrer. Molenbeek, il y a un petit moment, l'OL l'année dernière, Botafogo, c'est en train de tout exploser et également. Donc, au niveau de l'argent, exactement. Ouais. En sachant qu'au départ, lui, il a dû mettre 5 millions à peine.
Edouard, bravo encore.
Moi, je peux pas les rencontrer, moi, les mecs de Arès. Là, je vais me un peu d'oseille. Je les mets les 5 millions, moi, ça va aussi.
Pour 480,
mais qui rachète Bordeaux.
Je vais les trouver les 5 millions. Je sais pas où, mais je vais les trouver. Je vais les interpréter aussi.
Merci, Edouard. Tu parles anglais couramment avec des notions fiscales et financières.
Mais pour 480 millions, je vais l'apprendre en anglais à une vitesse, tu n'imagines pas.
Écoute, Edouard, il faut quand même le dire. C'est ton info, et donc bravo pour le boulot. Et voilà, bravo.
Merci,
je sais que t'as pas beaucoup dormi, donc va te reposer maintenant.
Allez,
merci.
Allez,
merci.
C'est pas Edouard qui va finir administrateur.
Et pourquoi pas.
Alors, autre info qui va vous intéresser, elle est tombée aujourd'hui. C'est donc Nicolas Taverneau qui a annoncé aux dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 un accord entre la FIFA et Ligue 1 Plus pour la diffusion intégrale de la Coupe du Monde 2026. Il y a déjà un diffuseur gratuit qui est M6, gros investissement de la part du groupe M6, qui va diffuser 54 matchs. Mais il manque un diffuseur payant en France. Et donc Ligue 1 Plus s'est positionné à hauteur de 20 millions d'euros auprès de la FIFA. Il y a un préaccord avec la FIFA. Le but, c'est pas forcément de recruter de nouveaux abonnés, mais c'est surtout de conserver les abonnés, parce qu'il y aura 3 mois sans programme sportif sur Ligue 1 Plus. Donc entre les deux championnats, il faut bien occuper les abonnés et les garder. Info importante, malgré le préaccord, si un autre diffuseur payant se présente à la FIFA avec une meilleure offre, eh bien c'est celui-ci qui devrait être désigné par la FIFA. On pense évidemment à beIN Sports qui a diffusé les deux dernières Coupes du Monde 2018 et 2022.
Tu crois qu'ils vont laisser faire ça, beIN Sports? Bah, beIN Sports,
en tout cas ils ne sont pas manifestés.
C'est les Qataris, c'est Nasser El Khelaifi.
Ouais, et puis c'est un enjeu, t'as raison.
On connaît les tensions aussi avec Ligue 1 Plus et ce qu'ils pensaient de cette chaîne. Je les vois pas laisser faire le
est-ce que vous comprenez la stratégie de Ligue 1 Plus?
Non, mais
qui court après les millions, mais qui veut quand même investir sur la Ligue 1 Plus.
Mais comme dit Dugas, je pense que
il est là pour ça aussi, de Taverneau, c'est un mec de télé. Il a moi, je trouve que le mec, il tente un truc et tout, je trouve que c'est
quand même mieux que la diffusion des matchs de Bordeaux.
Je trouve que l'idée est plutôt excellente pour attirer des abonnés.
Enfin, retrouver les bonnes pilules pour.
J'espère que les calculs sont faits parce que quel est l'intérêt d'avoir des matchs? Alors c'est juste pour satisfaire le million. Est-ce que ça va vraiment t'amener des abonnés en plus?
Conserver tout le monde.
Donc c'est une perte sèche de 20 millions d'euros. Quoi.
Oui, alors eux te disent que d'après les sources de LFP Média, c'est qu'avec les rentrées publicitaires, tu pourrais quand même combler l'investissement que tu réalises. Ça c'est un calcul.
Ouais, puis on est tranquille financièrement. En France.
Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas un ou deux millions près du gars en France. A priori.
Bon, il voulait bien mettre 5 millions sur un match de national, donc au pire, c'est une perte sèche. Écoute, c'est pas grave.
Sachant que, attention, il y avait déjà une procédure entre beIN et la Ligue. La Ligue a gagné, donc beIN va devoir déjà payer. beIN, c'est bien évidemment, ils vont pas se laisser faire, ou alors pour le coup, ils se retrouvent un peu à poil.
Quand tu vois le carton de la carte,
j'y crois même pas. beIN, ils vont se mettre sur l'affaire. Ils vont proposer 21 millions.
Ouais, c'est possible. Ouais. Dans un instant, le quiz de Rotten sans flamme. Le grand Louis Gerbier arrive dans ce studio.
Je suis en route pour un grand chelem.
Et j'espère qu'on aura les alertes compo pour le PSG, pour l'OM et pour Monaco. Grande soirée de Ligue des Champions sur RMC. Restez avec nous.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC. La musique, la Ligue des Champions. Ah. Oui, ça arrive dans 1h15. Un peu moins d'une heure et quart, le multiplex Ligue des Champions. Dernière journée de ces matchs de ce mini-championnat. On va se régaler. Vraiment, il y a du suspense partout. On est avec Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin pour finir cette émission. Benoît Boutron. On va faire le quiz de Louis Gerbier.
Et dans un quart d'heure.
Sur la Ligue des Champions.
Exactement. L'After Live, spécial Ligue des Champions. Les 18 matchs à suivre en direct. Les 3 clubs français engagés. L'objectif, les barrages pour Monaco, pour Marseille, le top pour le PSG, on va se régaler.
18, avec Jean-Louis, je sais pas qui va analyser tout ça, mais ça va être compliqué. Hein.
Allez, on y va, c'est parti.
Comment il va faire, le mec? Tous contre Rotten.
Salut Louis Gerbier.
Salut l'équipe.
On a un magnifique cadeau ce soir.
18.
Ah, Manu, déjà, suivre deux matchs en même temps, c'est compliqué.
Imagine 18. Imagine. Oh, je vais écouter.
Le cadeau est magnifique. C'est un maillot du PSG signé et authentifié de la part de Vitinha grâce à notre partenaire Authentique Signature. Deux supporters parisiens vont s'affronter, Damien et Pierre-Olivier. Salut à vous deux.
Salut Pierre-Olivier, salut Damien. Bienvenue les gars.
Salut tout le monde.
Un super est-ce cadeau. Ne vous trompez pas. Hein.
Alors justement, est-ce qu'il y en a un des deux qui préfère jouer avec le reste du monde, avec Duga et JPP?
Ah, c'est très bon ça.
Celle-là, c'est la meilleure.
Il
n'y
a pas une autre question?
Celui qui a rigolé.
C'est une honte. C'est une honte.
Bon, allez, on tire au sort. Louis, qui va jouer avec Jérôme? Damien ou Pierre-Olivier?
Ah, désolé, Pierre-Olivier.
Ah, Pierre-Olivier, t'es avec Jérôme. Désolé, excuse-nous.
Il a gagné.
Ah, bah, c'est bon, t'es avec Jérôme. Et du coup, Damien avec le reste du monde.
Eh ben, bon courage.
Allez, vas-y, Louis.
Moi, j'ai une pression.
Il a dit.
J'ai une pression ce soir parce qu'il y a Jean-Louis Tour qui nous observe. C'est pas tous les soirs. Le thème du soir, tu l'avais deviné, Jérôme, je deviens prévisible. Les matchs de Ligue des Champions de la soirée.
C'est original.
J'en ai choisi 3. On va commencer par Naples-Chelsea.
Bon, voilà. Du moment que tu trompes pas d'affiche.
Ouais, c'est
parce que des fois, tu trompes d'affiche. Bah,
c'est arrivé une fois.
C'est vrai que c'est le match qu'on va suivre ce soir.
C'est pour ça que je commence par lui. Ouais. Parce que vraiment, moi, je vais être sur Canal Live 11 pour le voir.
Super.
Question Larqué.
26-15, code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent.
Gerbier, t'es un truand.
C'est quel match, là? Naples-Chelsea. Et c'est même une croisée avec la question con.
RMC.
Oh. Qu'est-ce que vous êtes con? Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
La question con.
Vous avez compris, en gros, c'est un jeu de mots douteux sur un joueur des années 90. Quel joueur des années 90 passé par Naples et Chelsea passait son temps à accuser les gens? Il était dans la rue, là, il hurlait j'accuse, j'accuse tout le temps.
Zola?
Ouais.
1-0 pour Jérôme.
Question.
Donc là, t'as voulu faire une question littérature.
On avait qu'à ce moment-là.
Ouais, ah.
Alerte. Compo Paris Saint-Germain avec une énorme surprise, Valentin Jamin.
Safonov est titulaire, messieurs. Le Matvei Safonov officier dans la cage parisienne ce soir. Il revient de blessure. On rappelle, il avait été très bon en remplaçant Lucas Chevalier en décembre.
Il est pas dans la liste, donc.
Jusqu'à la Coupe intercontinentale. Et Matvei Safonov revient de blessure et écarte du 11 Lucas Chevalier. On l'avait vraiment pas vu venir. Il est donc de retour de blessure et de retour dans les 11. Hakimi est là, à droite de la défense également. Nuno Mendes à gauche.
Chevalier,
Marquinhos et Pacho pour la charnière. Le milieu de terrain avec Vitinha, avec João Neves qui revient aussi de blessure et avec Warren Zaïre-Emery. Et l'attaque, c'est Kvaratskhelia à droite, Dembélé en pointe et Barcola à gauche. Donc pas de Désiré Doué.
Merci pas mal quand même. Valentin, belle équipe, mais la surprise, Safonov dans les buts à la place de Chevalier. Alerte compo pour l'OM à Bruges, Florent Germain.
Ah, on y est effectivement, et il y avait un doute concernant Pai Chao, c'est Murillo qui va jouer. La compo marseillaise, Aguerd entouré de Balerdi et de Medina, roulé dans le but évidemment. Murillo à droite, Wea a priori à gauche. Kondogbia est bien là aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg et le trio offensif comme annoncé tout à l'heure. Guiri en pointe entouré d'Ahmed Junior Traoré et de Mason Greenwood. Les supporters marseillais sont déjà sur place au Jan Breydel Stadion. Ils vont être environ 1500 soir pour ce match décisif.
Et alerte compo.
Ça devrait au moins accrocher à nul ça quand même.
Et ben on verra. Alerte compo pour Monaco. Monaco qui reçoit la Juve, Maxime Tilliette. Salut Max.
Oui, bonsoir à tous. Et pour Sébastien Pocognoli, ce sera un 4-3-3. Il décide de renforcer son entrejeu.
10 défenseurs.
Non, quand même pas. Il n'en a pas assez pour pouvoir le faire. Donc ce sera un 4-3-3 avec Zakaria Camara et le jeune Mamadou Koulibaly en renfort, plutôt à la place d'un Ansu Fati qui normalement aurait dû jouer en soutien de Balogun. C'est le profil plus défensif de Koulibaly qui a été privilégié avec évidemment Balogun associé à Kliouche et Golovin. Côté Juventus, on retrouve évidemment Pierre Kaloulou ou encore Kefren Thuram et l'ancien Lensois Loïs Openda à la pointe de l'attaque.
Merci Max. Tous les avant-matchs à partir de 20h dans l'After Live avec Jean-Louis Tour et Manu Petit. On reprend le quiz, 1-0 pour Jérôme et Pierre-Olivier contre Damien et le reste du monde.
Allez, question du gars.
Faites comme moi, soutenez la fondation Elzaïna.
Ça concerne un ancien coéquipier de Duga. Quel joueur passé par les deux clubs Naples et Chelsea était scruté par Didier Deschamps pour les Bleus alors qu'il était déjà international sénégalais. C'est dommage. Question, t'y rendis compte?
T'y rendis compte si tu poses une question à un supporter italien qui est dans Quelcoin? Qui est cette plus forte?
Qui est cette plus forte?
Non, bah, c'est trop long.
Ils sont là, JPP du gars.
Pff, on sait pas. Franchement, on sait plus.
Ouais. Le pauvre Damien, il a cru qu'il avait gagné son maillot de Vitinha.
Quel champion d'Europe avec l'Italie? Passé par Naples et Chelsea a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021. Champion d'Europe italien.
Jorginho.
Oui.
C'est simultané là.
Non, c'est je sais pas. Le premier, le vrai premier, c'est Manu Petit.
Réduction de l'écart du reste du monde.
Allez, oui, on change de match.
Ah, merci, enfin.
Dortmund-Inter.
Okay. Oh, ouais, super. Okay.
Je me fais marrer au moins, c'est bien. Okay, question flash. Quel joueur passé par les deux clubs a marqué un but en finale de Coupe du Monde contre la France?
Dortmund-Inter. Ah, je l'ai.
2018.
Mmh. Perisic.
Bravo.
Perisic.
Bonne réponse de JPP. C'est incroyable. Une minute 10.
Allez, je suis réveillé, ça y est.
Une question auditeur pour Damien, quand même.
Allez chercher vos maillots. Damien et Pierre-Olivier.
On est sur Dortmund-Inter. Quel champion d'Europe avec le PSG passé par les deux clubs? Il mérite pas le maillot.
Facile.
Merde, attends.
Et bah alors,
champion d'Europe parisien qui est passé par l'Inter et Dortmund.
Il a failli gagner la CAN là. Pourquoi il a pas gagné Benoît déjà?
Hakimi.
Ah bravo, oui.
Hakimi.
Ah putain, ouais.
Qui l'a dit Hakimi?
Damien.
Ouais, c'est bah, Damien, voilà. Ça fait 3-2 pour le reste du monde, incroyable. Voilà. La routine.
J'essaierai de me prendre. Oh là là là.
Le score est remis à zéro.
Oh là 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 là, l'arnaque. Oh, c'est l'arnaque.
Je suis encore en vie. Bah, attends, ça s'est joué à rien, Jean-Pierre.
Allez, pensez à vos auditeurs, restez dans le quiz.
On finit avec PSG Newcastle et une question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC, la question pour le patron.
On n'a pas le droit de faire ça.
PSG Newcastle, je l'ai.
J'ai tous les droits. Quel ancien coéquipier de Jérôme a rejoint Newcastle après son départ définitif du PSG?
Ah ouais?
Je peux répondre ou pas?
Oui.
Jérôme Pancrate.
Non,
Fabrice Pancrate.
Oui, Fabrice Pancrate.
Jérôme
Pancrate. Ah, il est pas loin.
Putain, Jérôme Pancrate, là va rester Jean-Pierre.
Non mais Jean-Pierre,
t'es toujours grave. En route pour un grand chelem du coup. Je présente mes excuses à Damien qui perd le maillot sur ses Jérôme Pancrate
et à Fabrice aussi.
Et je dis bravo à Pierre-Olivier qui remporte ce magnifique cadeau.
Bravo Pierre-Olivier. Et on aime Jérôme Pancrate
et on l'adore.
Tous contre Rotten sur RMC avec authentiquesignature.com, le site de référence des maillots signés et certifiés, véritable pièce de collection. Rendez-vous sur authentiquesignature.com.
Merci Louis Gerbier, merci Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin. Dans un instant, immense soirée européenne, l'after live, tous les matchs, les 18 matchs de la dernière journée à suivre avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit-Jérôme.
Vous allez vous régaler, restez bien à l'écoute d'RMC. Nous, on se retrouve demain pour débriefer tout ça. Alors, les 18 matchs, on ne pourra pas, mais au moins les 3 matchs des clubs français. On sera là demain à partir de 18h. Ça va être une grande émission, mais surtout, restez à l'écoute d'RMC. C'est ici que ça se passe ce soir. Tous les matchs, 18 matchs en même temps. Bisous, bonne soirée, à demain.
C'est jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.